Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les mecs que je veux ken. Mes petits chats gris, mes petites tasses chantantes de La Belle et la Bête, mes auditeurs et auditrices chéries, comment allez-vous ? Moi, triste parce que c'est déjà le dernier épisode des auditrices anonymes. Merci pour vos messages, je crois que cette édition vous a beaucoup plu, pour certains vous a beaucoup donné envie de participer, et vous allez voir, la dernière invitée, Julia, est juste incroyable. Mais heureuse aussi, je vais bien, je ne suis plus malade du tout, je suis heureuse car les extraits publiés sur Insta de la vidéo YouTube pour Combini, je vous mets le lien en description, cartonnent et j'ai dépassé les 30 000 followers, yes! Et Angèle a même liké l'un de mes reels, waouh! La gloire frapperait-elle à ma porte? Mine de rien, je suis de plus en plus reconnue, fufu, enfin, ça m'est arrivé une fois cette semaine dans le métro mardi et je surkiffe. J'aimerais que tout le monde me reconnaisse tout le temps. Non, plus sérieusement, c'est pas du tout sérieux, mais j'ai aussi envie de vous dire que j'ai binge-watché une série Netflix de télé-réalité dont j'avais beaucoup entendu parler, Love is Blind. Je sais pas si vous connaissez, c'est très divertissant. En fait, le concept, c'est des jeunes gens très américains qui se parlent derrière un mur et créent une connexion émotionnelle, tombent amoureux sans s'être jamais vus. Et ils se demandent carrément en mariage. Ensuite, ils se découvrent dans la vraie vie et c'est l'épreuve de réalité, se plaisent-ils physiquement autant que humainement. Et en général, ils sont tous très beaux, donc ça, c'est pas très juste. Quitte à faire une émission sur l'amour aveugle, autant prendre des gens qui sortent vraiment des normes de beauté. En tout cas, c'est un bon motivateur en regardant la série pour se demander soit ce qu'on veut, ce qu'on cherche chez l'autre. De mon côté, avant de tomber malade il y a 15 jours, j'ai eu un autre date grâce à Bumble. Bumble, c'est l'appli où ce sont les femmes qui font le premier pas. Et également, meilleur sponsor de la Terre, hein, je vais vous le dire, Bumble, ils m'ont livré des fleurs pour mon anniversaire, et un jour comme ça, voilà, à 19h, mon téléphone sonne, c'est Bumble qui me livre de délicieux donuts au réveil, et puis en plus, ils organisent des concerts tout le mois de juin, enfin c'est incroyable, des soirées, des talks sur l'amour, enfin bref, c'est trop cool. Donc je vous raconte mon date Bumble avec A, on va l'appeler A. On s'est retrouvé vers Ménilmontant, un peu en last minute, sans trop le programmer à l'avance. J'étais tellement charrette, j'ai dit je peux là maintenant. Et le gars a débarqué illico presto, se rendant dispo sans égo. Mec très gentil, mais alors, vous allez vous foutre de ma gueule. En fait, j'ai un blocage avec les mecs qui portent des boucles d'oreilles, même fines, même une petite boucle, ça me plaît pas de ouf. J'avoue, Love n'est pas blind, la boucle d'oreille, c'est un peu trop mode pour moi. Mais je crois que c'est générationnel, quand je dis ça à une meuf de 20 ans, elle est là, mais non, mais t'es ouf, c'est trop stylé, un mec avec une boucle d'oreille. Et une trentenaire, comme moi, voilà, ça la dégoûte. Je sais pas, on n'est peut-être pas suffisamment déconstruite. A était très gentil, figurez-vous qu'il connaissait le podcast via les épisodes avec les invités de France Inter, Guillaume Meurice, Alex Vizorek, Marina Rollman. Il me connaissait déjà avant le date, quoi. Ce qui est plutôt flatteur, mais résultat, je crois qu'il était un peu intimidé. Enfin, en tout cas, il avait l'air stressé, et il me disait vouloir se lancer dans l'écriture, mais j'arrivais pas trop à comprendre comment. Dans le stand-up, il se tâtait, tout le monde veut se lancer dans le stand-up maintenant. Enfin, il avait pas l'air très heureux dans son job alimentaire et un peu paumé dans sa life. J'ai creusé, finalement, l'activité de podcasteuse me rend assez bonne intervieweuse en date, et il m'a avoué qu'après avoir été en couple depuis 9 ans, il venait juste de se séparer de sa nana. Elle l'a largué après les confinements, mais ils vivent encore ensemble car ils ne trouvent pas d'autre appart. Il pourrait aller gratuitement dans le studio de sa sœur, un super studio qu'elle propose de lui prêter dans le 13e, mais c'est trop petit pour lui. Voilà, c'est pas à son goût. Bref, ça m'a pas méga attiré, quoi. Un peu trop, je sais pas, très gentil, hein. Je faisais des blagues, il rigolait, mais j'ai pas eu envie de le revoir après. Puis je suis tombée malade, donc ça a résolu le problème. Mais je lâche pas l'affaire. J'ai l'appli Bumble sur mon téléphone, donc je continue, hein, maintenant que ça va mieux, à swiper à nouveau, sans relâche. J'ai discuté hier soir avec un Turc vivant à Nogent. Je lui ai parlé de Nuri Bilge Ceylan et des paysages d'Anatolie de Wintersleep. Il avait l'air impressionné. Mais sans plus attendre, passons au dernier épisode de cette série avec la passionnée, enflammée, émouvante, drôle Julia, avec qui j'ai complètement matché. Bonne écoute.
Ben, j'avais culpabilisé en disant pourquoi t'y arrives pas, c'est que t'es pas vraiment passionnée en fait. C'est pas ton rêve dans la vie. Et on me renvoyait aussi ce truc-là de bah, si t'avais vraiment envie d'être comédienne, tu l'aurais fait en fait. Tu l'aurais fait, t'aurais jamais abandonné. Et ça m'a fait tellement du bien de t'entendre en fait mettre des mots sur des choses qui. Enfin, j'étais pas folle. Non, il y avait vraiment un problème. Et c'était dur d'arriver en tant que femme dans une période du coup avant MeToo où on n'en avait pas du tout parlé et où il y avait encore plein de choses, mais tellement, tellement fucked up. Et du coup, de t'entendre, ça a été un soulagement et ça m'a guéri, en fait, de comprendre plein de choses et de s'autoriser, du coup, à pouvoir refaire des choses. Il n'y avait pas qu'une manière, en fait, de rentrer dans ce métier ou de faire des choses créatives et de pouvoir s'exprimer. Donc, merci.
Ah, mais Julia, on commence tout de suite tellement fort. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est fou. Ça me fait trop du bien ce que toi tu dis aussi, parce que même moi, après l'avoir écrit, j'avais quand même aussi, pas la culpabilité, mais j'avais l'impression que comme la parole s'est libérée aussi sur des choses très graves, des questions de viol et d'inceste, je me disais, est-ce que si je raconte ce qui m'est arrivé et que, en fait, mine de rien, sur le moment, tu sais, tu te dis, c'est pas si grave, mmh. Est-ce que le fait d'en témoigner... ça avait une valeur, tu vois. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en discutant avec les femmes, que non, en fait, que même de profs très insistants pour devoir montrer les seins et tout ça, en fait, c'est pas parce que c'est pas la chose la plus grave qui peut arriver que c'est pas totalement fucked up et destructeur.
Exactement. Ouais. Les humiliations. Et c'est rigolo parce que le truc des seins, moi aussi, c'est revenu.
Mais non.
Et c'était aussi lors des auditions, en fait, parce que c'est le moment où il va falloir montrer un peu ce que tu peux faire, et il y avait cette espèce de truc où certaines filles pouvaient y aller et aller se jeter et tout d'un coup aller pouvoir simuler des orgasmes, faire des trucs hyper forts, et moi j'avoue que j'étais tout le temps tétanisée complètement,
ouais.
Qu'est-ce que cette espèce d'énergie même sexuelle en fait dès le début dans un
très jeune en très plus jeune, au début de la vingtaine, ouais,
d'audition où on se connaît pas, je vous connais pas, la personne en plus me gueule dessus, et c'est un peu un truc de dis donc, allez,
allez, fais pas ta coincée.
Tu veux être comédienne ou tu veux pas être comédienne,
ouais, sois
et
généreuse.
Alors, sois généreuse. Ouais. Moi, il y a une fille à côté qui est en train de simuler un orgasme de nulle part, ouais, et qui monte ses seins, etc. Non, je vais pas pouvoir faire ça, et ça remet pas en question
ton engagement, ta passion, bien sûr.
Est-ce qu'on on doit tout faire?
Mais non, coup, non.
On doit se foutre à poil, forcément, même pour faire un truc fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rapport entre la nudité et la prestation, en fait. Enfin...
Et puis, on ne peut pas penser qu'elle soit sincèrement 100% consentante parce qu'il y a un rapport de domination, étant donné qu'il y a un prof qui exige ça. Donc, en fait, évidemment que d'une certaine manière, c'est aussi pour lui faire plaisir, faire ce qu'il veut. Mais moi, je n'étais même pas majeure. J'étais dans un conservatoire en terminale où, en effet, moi, j'étais en horaire aménagé théâtre. Elles étaient un peu plus âgées que moi. Elles étaient majeures, mais tu avais en effet pas mal de nanas qui se foutaient à poil. Mais les profs, c'était deux mecs. Et donc, en fait, même si elle le décide d'elle-même, on est quand même dans un cours, à l'école, dans une classe, et en fait, ça met aussi une pression, mine de rien, en fait.
Bien sûr, la pression du public, de ce qu'il va te demander, et l'audition, je trouve que c'est encore plus terrible, dans le sens où on veut rentrer. Donc là, tu mets dans une position où, il faut que je fasse mes preuves, donc je vais faire le singe, tu vois, qui tape dans les trucs, je vais tout essayer de faire, et après, il y a une limite de... Non, là, moi, je me sens... à l'aise, et quand je suis venue à Paris, j'ai tenté 3 conservatoires d'arrondissement, j'ai eu les 3, donc j'étais très contente, mais j'ai choisi d'aller vers un conservatoire où il y avait une femme, en me disant déjà j'aime pas l'ambiance, donc je vais aller vers une femme, peut-être que ça ira. Et finalement, humiliation était là.
Oh, alors attends, je vais te lire ton poème et ensuite je veux tout savoir chronologiquement. Je suis trop passionnée d'avance par toi, Julia. Julia vient de Perpignan, elle est catalane, elle a grandi entre la France et l'Espagne. Elle est partie à 18 ans pour Paris pour faire des auditions pour les conservatoires d'arrondissement. Son père considérait que le théâtre était juste un hobby, il lui a imposé de s'inscrire aussi à la fac si elle voulait continuer le cursus d'art dramatique. Elle est rentrée donc à la Sorbonne en histoire et elle faisait en parallèle le conservatoire du 12e arrondissement.
Elle n'était pas épanouie et après 2 ans, l'opportunité de partir à l'étranger se présente. Et grâce à Erasmus, elle décide donc de demander une année de césure au conservatoire. Julia est partie vivre en Écosse pendant 1 an, le cœur brisé d'arrêter le théâtre pour la première fois en 14 ans, mais cette année en Écosse l'a transformée. À son retour à Paris, elle n'est plus la même et le conservatoire la dégoûte. Elle poursuit ses études et arrête le conservatoire. Elle rentre en master de relations internationales et sciences politiques. Mais son master en poche, Julia réalise qu'elle ne souhaite pas s'engager dans une carrière en lien avec les sciences politiques. Elle n'a pas de travail à ce moment-là et besoin d'argent. Coup du destin. En se baladant dans la rue Étienne Marcel, Julia se fait scouter par un agent et rentre dans l'agence Silent, dans l'idée d'économiser assez d'argent pour partir de Paris. Après, je te dirais, mais Silent, il y a quand même un signe que cette agence s'appelle Silence. Par chance, elle atteint la somme fixée en moins d'un an grâce à quelques campagnes et casse son contrat pour partir vivre seule au Vietnam. Julia y vit 3 ans et fait un autre master sur le français en langue étrangère. Elle vit ensuite à Hong Kong où elle donne des cours de speech and drama à des enfants. Puis elle rentre à Paris juste avant le Covid et commence à travailler pour 2 applications de rencontres en tant que lead modératrice. Puis Julia retourne à Barcelone où elle compte s'installer et enfin développer ses projets créatifs. Merci Julia. Je suis très 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 heureuse de te recevoir aujourd'hui dans mon podcast et j'ai été très émue à la lecture de ton mail.
C'est moi qui suis hyper émue. J'ai pas de mots en fait pour exprimer ma gratitude et surtout que je pensais pas du tout que ça aurait un intérêt en fait et ça aussi merci de donner de la légitimité aussi à ce qui m'est arrivé etc. Donc merci, ça me touche déjà beaucoup.
Et alors donc j'ai l'impression qu'on a plein de similitudes dans nos parcours et notamment l'amour du théâtre mis à mal en fait finalement. Et donc, tu grandis à Perpignan. Tes parents font quoi ?
Alors, ma mère est pharmacienne et mon père a pas mal changé de boulot.
D'accord.
Moi, j'avais un peu l'image de lui comme un mec qui fait des trucs bizarres et qui signe des papiers, qui a toujours un espèce de coup un peu sympa. On lui a offert ce barbecue, on lui a offert un quad. Il y a toujours des trucs, un voyage à Saint-Domingue. Donc, c'est quand même un peu étonnant. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de leçons à donner, en tout cas, sur la vie et sur le marché du travail. Dans lequel il faut rentrer d'ailleurs, les études d'histoire pour lui, c'était des études de chômeur aussi. Hein. il avait même dit à mes potes qui étaient venus me voir dans le sud, alors les futurs chômeurs, ça va ? Donc c'était...
Ouais, gros personnage.
Gros personnage, beaucoup Gouaille. De caractère. Okay. Voilà, le mec du sud aussi, dans
toute
dans
sa splendeur.
Dans ce qu'on imagine, exactement.
Et t'as des frères et sœurs ?
Oui, alors mes parents sont divorcés quand j'avais 2 ans, donc j'ai une sœur de mêmes parents et ensuite un demi-frère et une demi-sœur.
Ok.
Et lui après mon père, c'est enfin eu d'autres, enfin tu vois, c'est vraiment un personnage.
Un Don Juan.
Oui. Oh.
D'accord. Donc beau mec, oui, très,
très beau
charismatique.
Mec, très charismatique. Et souvent d'ailleurs, mes amis me disent, mais il est super ton père. Génial. Je comprends pas. Qu'est-ce que. Mais c'est parce qu'il faut le connaître justement. Il est très séducteur. Il saura très bien. Il peut séduire un arbre en fait. Il adore séduire. Il a besoin de ça. Mais après, il a un côté où, en effet, il rabaisse énormément. Oh. C'est-à-dire que moi, là, par exemple, ma licence d'histoire de la Sorbonne, un jour, il m'a dit que c'était sa comparaison. Donc, c'est un raciste. Hein, il faut aussi le remettre en perspective. Que c'était l'Afrique et que mon master, c'était l'Afrique noire.
Donc, wow.
Je lui ai répondu, alors, plein de ressources, du coup. parce
que, très bonne réponse. Excellent.
Je vais me faire piller, du coup, par le reste du monde. Ça se passe comment ? Bon, chose qui n'a pas du tout,
plus.
Pas du tout fait rire. Parce que, voilà, les sciences sociales, tout ça, l'art... C'est de la merde, en fait. C'est de la merde, voilà.
Et toi, comment tu commences à, enfant, en fait, à te passionner pour le théâtre ?
C'était un peu le côté Harry Potter, dans le sens enfant qui rêve d'une autre vie et qui espère qu'un jour, elle va pouvoir vivre dans un autre monde que celui dans lequel elle a grandi. Tu espères que tu n'appartiens pas forcément à ça. Et que du coup, tu te déguises, tu fais plein de choses qui font que tu as envie de créer finalement cette espèce de réalité dans laquelle toi, tu n'appartiens pas. Et finalement, c'était vraiment le seul échappatoire où Enfin, mes parents me faisaient faire plein d'activités. J'ai fait du violoncelle, okay. J'ai fait plein de trucs. Et de la danse classique, c'était un enfer. Mmh. Et entre deux cours, je vois le théâtre et je me dis, mais c'est génial. C'est en fait, là, je pouvais m'exprimer. Je pouvais justement créer ce petit moment où je pouvais être qui je voulais. Et c'était une espèce de liberté qui était dingue et qui me rendait trop heureuse, quoi.
Et tu vivais avec ta mère ou avec ton père ?
Un week-end sur deux avec mon père et la plupart du temps avec ma mère.
D'accord. Et ta mère, elle était un peu plus encourageante, un peu plus soutenante par rapport au théâtre à ta passion
Beaucoup plus. Quand j'ai dit, en fait, à la base, il m'avait dit, quand j'étais au lycée, tu feras un truc, Sciences Po. Enfin, il voulait que je fasse une grande école.
Ok,
en fait.
Donc beaucoup d'ambition pour toi.
Oui. Après, je ne sais pas si c'est forcément pour moi directement.
Ah, pour eux.
Pour eux, pour ce que ça va renvoyer après comme image. Si j'avais fait ingénieur, ça aurait été très bien aussi, en fait. C'était, voilà.
Pression sociale.
Exactement. Et mon prof de théâtre de l'époque avait dit, non, mais il faut faire quelque chose. Ouais.
Elle a du talent.
En tout cas, il a cru en moi et c'est lui qui m'a formée, enfin qui m'a préparée pour les conservatoires. Et à ce moment-là, il parle à ma mère et ma mère l'écoute en disant, bon, moi, je vous fais confiance. Si vous y croyez aussi, allez, on la prépare et elle part à Paris. Et mon père était complètement contre à ce moment-là. En disant, mais qu'est-ce qu'elle va aller faire? Elle va aller faire la belle à Paris, n'importe quoi. Et c'est là qu'est venu le deal de, bon, si tu veux y aller, par contre, ce sera la fac à côté.
Ok,
donc,
d'accord.
C'est comme ça que ça s'est fait. Mais heureusement que j'ai eu ma mère, oui, en effet, qui, elle s'est dit, bon, je te fais confiance, vas-y, tente.
Et donc à 18 ans, directement après le bac, tu montes à Paris et c'était pas trop violent de quitter Perpignan pour aller à Paris, de quitter tous tes copains du lycée
Non, je suis partie du lycée, j'étais en mode aller tout faire
bye
voir.
Bye.
Ouais. J'avais vraiment là pendant 10 ans même un truc de je détestais Perpignan, il y avait un espèce d'immobilisme intellectuel, pas du tout mélangé. Enfin, les mêmes gens et puis c'est toujours, par exemple... Il a fallu que je parte pour me réveiller sexuellement, tu vois, parce que c'est le genre de ville où si tu fais un truc avec quelqu'un, tout le monde
salope.
Va le savoir.
Ah ouais,
exactement, tu vois, c'est... Donc tu peux pas vraiment évoluer.
Explorer.
Donc, Paris, moi, j'étais là, oh mon Dieu,
des hommes.
Je peux être anonyme, je peux faire ce que je veux.
C'était
une espèce de folie, c'était une libération en fait. J'ai trouvé ça génial et j'avais pas du tout peur en fait. J'étais là, c'est trop bien, je peux prendre le métro. Oh mon Dieu, il y a la Tour Eiffel. Enfin, j'étais une gogole au début, dans une espèce de lune
joie.
De miel, de lune de miel de Paris. De waouh, c'est fantastique. Je vais faire du théâtre ici. Et après, c'est là que ça a été l'entrée vraiment au conservatoire où même on m'a fait. C'est là que j'ai ressenti que je venais de Perpignan aussi. J'ai dû prendre des cours d'accent du coup avec ma prof.
Humiliant quand même.
C'est pour ça que je te disais finalement le fait que ce soit une femme, ça a été horrible.
Ah ouais, elle se cassait là-dessus.
Elle était de Marseille, elle, à la base.
Ah ouais.
Et elle me disait, justement, moi je sais ce que c'est une honte, cet accent. Tu peux pas avoir un accent comme ça.
Oh.
Tu vas jouer quoi avec cet accent? Hein? À part les femmes de bas étage, et avec ton physique, ça va pas être possible. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Et donc. Après chaque cours, on avait une heure et demie où elle me faisait lire des textes. Et du coup, on reprenait je vais t'apprendre à parler français, hein, du coup.
Waouh, donc gros mépris. Ah ouais, donc après l'arrivée, l'enchantement de l'arrivée à Paris, à la capitale, d'un coup, quand même, tu te confrontes à la violence, en fait, du milieu du théâtre, quoi.
Oui. Beaucoup plus que celui de la Sorbonne.
Ouais.
Tu vois,
ok, c'était plus cool en fait.
Beaucoup plus cool, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus mélangé. Il y en a certains qui se prenaient pour
Y en avait qui
l'élite de la nation,
évidemment.
Mais le pire, ça a été vraiment le conservatoire. Et pourtant, j'avais beaucoup moins d'heures au conservatoire. Et c'est devenu le truc où dès que j'y allais, j'angoissais en fait. Vu que je savais que ça allait pas aller et qu'il y avait aussi ce décalage, j'avoue, de culture. Et j'ai trouvé ça intéressant. D'ailleurs, dans l'épisode avec Joanne Malo, parce que c'est vrai que moi, j'avoue que j'avais été un peu impressionnée. Oui, il manquait de la culture dans le sens où je ne m'étais pas fait toutes les pièces de Tchekhov, je n'avais pas vu tout ça. Et directement, ma prof nous disait, mais comment ça?
Vous n'y connaissez rien,
vous n'allez pas à la... Vous êtes nuls, quoi. Comment ça, vous n'avez pas lu Tchekhov? Et nous, on était... Je me souviens, j'avais une copine qui était de banlieue où toutes les deux, on se comprenait en fait dans un théâtre qui était déjà plus...
Contemporain.
Et même plus de la vie. Qu'est-ce que tu... C'est quoi cette espèce de...
Complexe que tu nous
fous. Que tu nous mets alors qu'on est là pour apprendre à jouer. Et là, ça ne nous donne pas envie parce que directement, on est critiqué alors qu'on vient pour apprendre. Moi, je viens de province. Évidemment qu'on n'a pas le même héritage culturel. Il n'y a pas la même offre culturelle, en fait. Donc, il y a eu plein de trucs comme ça où je me disais, oh là là, il va falloir que je rattrape. En apprenant en même temps la fac, tout était un peu compliqué. Et à chaque fois, Ça n'allait pas, quoi. Ça n'allait pas.
Mais tu as quand même trouvé à la fac qu'il y avait plus de mixité, de diversité, des gens de milieux différents, oui, moins de...
Moins de théâtreux.
Ouais, en fait. De théâtreux, pardon, bourgeois. De... Bah non, t'excuses pas, moi, c'est... J'ai trouvé aussi que c'était comme ça. Et puis, il y en a pas mal de comédiens qui sont venus témoigner dans le podcast, en fait, du complexe qu'ils avaient ressenti en intégrant les écoles. Tu as aussi Valentin de Carbonnière, comédien qui, au conservatoire aussi, se sentait comme un con. Enfin, et c'est bizarre que les profs te fassent sentir comme ça, alors que toi, t'as qu'une envie, en fait, bah, c'est d'apprendre, quoi, et pas de te faire taper dessus. Mais c'est fou le nombre de profs de théâtre qui sont des pervers de dingue, quoi.
Qui sont mauvais, c'est ça. Et le manque de bienveillance. Moi, je savais déjà dès la première année que je voulais pas continuer dans ce conservatoire. Je me suis dit, non, j'apprends rien. Enfin, c'est pas que j'apprends rien, mais là, je me sens complètement bloquée. J'arrive plus du tout à m'exprimer parce qu'il faut rentrer dans une espèce de...
De moule.
Et puis, c'était de la merde ce qu'on faisait. Désolée, mais j'avais honte de faire les pièces.
Ah bah ouais, je vois trop.
Honteux. Les trucs du conservatoire, c'était honteux. Ouais. Vraiment des non.
Où t'es en blanc,
Tout en noir, hyper sérieux. Et tout est faux, tout, les gens acclament. Enfin, et je me disais, mais c'est ça le théâtre. Mais c'est pour ça que les jeunes vont plus au théâtre. Ouais. C'est pour ça que c'est déserté. Parce que c'est de la merde. Je suis désolée, mais c'est fait par des. La nana, elle avait 50 ans et elle voulait refaire ce qu'elle aurait aimé faire à l'époque quand elle, à mon avis, était comédienne. Et clairement, elle reproduisait sur nous et il y avait un espèce de truc complètement à sens unique.
En fait. Elle écoutait pas vos désirs. Elle était frustrée.
Et on ne peut pas être comédien. Mais non. Enfin, merci du coup d'avoir mis des mots là-dessus. Mais nous aussi, on doit faire partie de ce processus de progression. Là, on n'était plus du tout dedans. Inclus, quoi. Aucune envie non plus. Parce que vraiment la honte. Et quand je suis rentrée d'Écosse, elle m'a dit, viens voir notre spectacle. Tu vas voir, c'est génial. On est à Odéon. Vous êtes à Odéon? Vraiment? À la MP2A. Ouais. Déjà, tu vois, toujours.
Ouais, toujours.
On a joué à Chaillot. On a joué dans les marges de Chaillot.
Ouais.
Tu vois, toujours.
Mytho, à exagérer, oui, pas dire la vérité.
Merde. Ouais. Enfin, on a honte. C'est nul. Et ma pote, par contre, avait réussi à lui dire, mais ta gueule. Et avoir un truc. Ouais. Avait pété un plomb.
Ouais.
Et c'était. Et lui avait vachement rentré dedans. Et ça, pareil, j'avais toujours admiré. Et justement, je sais pas pourquoi, mais j'ai une projection où toi, je t'imagine être la personne qui va aussi dire les choses et. Parfois, peut-être que tu l'as
regretté. Paye un peu, j'en paye le prix.
Mais,
Dieu, ouais.
mais heureusement, il faut qu'on voit de plus en plus de filles qui aussi tapent sur la table sans être l'hystérique, sans être la... Parce que du coup, il y avait un peu cette image-là. Si tu te plaignais, elle est chiante.
Elle est chiante, elle est difficile. De toute façon, elle ne travaillera jamais.
Voilà, ça doit être chiant tout le temps comme ça. C'est pas le plan. En fait, tu veux quelqu'un qui ferme sa gueule. Quoi.
Bah ouais, c'est clair. Et attends, tu sautes une page parce que là, tu pars, donc tu décides quand même de prendre une année de césure Erasmus, justement pour respirer. Tu vas en Écosse. Tu te souviens pourquoi tu as choisi l'Écosse?
Alors, encore une fois, Harry Potter, désolée, la grosse bouffonne, mais c'était vrai, quoi. Et je dois dire, Clapiche, avec l'auberge espagnole, c'était un film qui m'avait complètement marqué. J'avais adoré comment il avait montré Barcelone aussi, cette espèce de bordel, et ce truc de pouvoir se découvrir à l'étranger. Donc j'avais un fantasme de toujours, j'avais toujours voulu faire Erasmus, mais voilà, il y avait le théâtre, donc je me disais, ça t'arrivera jamais. Et vu que ça n'allait plus, je me suis dit, bon, vas-y, fais-le,
go,
pars, quoi.
Loin.
Et l'Écosse, je me suis dit, il est temps de trouver Poudlard. Vas-y. Va chercher.
L'école
de rêve. Tu n'as
pas
reçu ta lettre, mais tu vas y aller. Donc, voilà. Et là, ça a été...
Une respiration.
Mais même une grosse claque au visage. Pardon d'être un peu vulgaire, d'ailleurs.
Non.
Mais dans le sens où, déjà, je suis arrivée les deux premiers mois, la parisienne horrible. Mais c'est quoi cette merde? Il n'y a qu'une rue avec deux bars. Désolée, mais moi, ça ne va pas du tout le faire. Alors que je viens de Perpignan, hein, quand même. Enfin, en deux ans, j'avais pris le melon complet.
Bah ouais, comme tous les Parisiens.
La merde. Moi, je ne sors pas dans des soirées où il n'y a pas des DJ, etc. L'enfer. Et au bout de 6 mois, j'avais rencontré un mec. Okay. J'étais...
Amoureuse ?
Amoureuse. Alors qu'avant, je voulais pas du tout être en couple. Je l'ai suivi après en Espagne. Donc, okay. Tu vois, ça m'avait complètement changé. Je prenais aussi des cours de relations internationales où j'avais des profs qui avaient vécu 6 ans en Sierra Leone et qui avaient une vision de la vie que j'avais pas rencontré en fait dans le théâtre, des gens qui avaient fait d'autres choses dans notre société et qui finalement étaient beaucoup plus proches de la réalité d'une certaine manière, que même si c'est une réalité très dure, que ce que je vivais au théâtre où
j'étais déconnectée,
je savais plus du tout où j'étais. Et ça, par contre, une fois que j'ai pris conscience aussi des travers de notre société, de toutes ces choses là c'était très dur de revenir en arrière et de me dire bon ben maintenant tu vas faire la allez, oui, je vais, alors ok, je monte mes seins, enfin je me voyais pas retourner au théâtre en fait,
dans les jeux,
et me complaire du coup dans quelque chose où finalement je comprenais maintenant les dynamiques de pouvoir et je me sentais plus du tout à ma place en fait. et de voir ce spectacle en rentrant aussi.
Nul.
Nul. Où je ne comprenais rien, c'était Racine. Je ne comprenais pas le français. Je venais de passer un an à l'étranger. C'était pas parce que j'étais bilingue. Hein. C'est parce que leur français, la façon dont ils déclamaient le texte, c'était incompréhensible. C'était l'enfer. Et je me suis dit non. T'aurais pu être là, tu te rends compte.
Ah, tu t'as bien fait de t'échapper, mais, ouais, mais tu t'étais en fait... échappé. Et ce petit copain ça s'était terminé
Non, on a resté 4 ans ensemble. Ah,
donc il te suit aussi à Paris
on s'est séparés entre l'Écosse. Ça a duré jusqu'à ce que j'aille au Vietnam, en gros.
Okay.
Et il est venu au Vietnam, et au Vietnam, je lui ai dit...
Ça s'arrête.
Ne rallonge pas ton visa, ça ne servira à rien.
Ah. D'accord, ah oui, donc l'histoire continue quand même. Et lui, il faisait quoi ?
Lui, il faisait du droit.
D'accord, mais il t'encourageait quand même. À ce moment-là, il comprend que tu reviens à Paris, tu es prise entre le fait de plus envie d'avoir, de revenir au conservatoire, mais est-ce que tu as encore le désir d'être actrice à ce moment-là ?
Ben, j'ai toujours le désir de créer des choses, mais je suis complètement perdue parce que Paris, pour moi, c'était l'endroit où j'allais vivre toute ma vie, en fait. Et de revenir après l'Écosse, c'était un peu comme recoucher avec un ex. C'est-à-dire que je reconnaissais les courbes, les rues, je voyais ce que c'était, mais j'avais plus du tout...
Plus le charme, plus l'envie.
Et du coup, c'est juste bizarre parce que tu reconnais les choses, mais tu ne ressens pas du tout. Et
ça, l'attrait.
Tout sonne faux, tu ne te sens plus du tout à ta place, tu as envie de nouveau. Et du coup, je me disais, je ne veux plus être à Paris, en fait. Et là, Paris est devenu... horrible dans le sens où je prenais la ligne 13, enfin si tu veux, tout devenait
la
dégueulasse,
saleté, la...
voilà, ouais. tout partait et j'aimais plus du tout Paris. Lui habitait du coup en Espagne, donc je faisais
tout le temps des allers-retours
pour le voir. Et après, il m'est arrivé en fait quelque chose personnellement, donc aussi avec ma famille. Et à ce moment-là, je t'avoue que le théâtre, c'était plus du tout
possible.
J'y pensais même plus parce que j'étais dans une telle détresse personnelle de savoir justement où je vais et de réaliser en fait vraiment que je suis une femme dans une société, que en fait mon héritage de mon éducation, etc., c'était ça, et que peut-être qu'il n'a pas été complet au niveau du féminisme. Et du coup, j'avoue que j'ai abordé la découverte de la société de manière hyper naïve. Et c'est justement des choses un peu dures qui me sont arrivées, ça a été un peu dur en fait de
d'un coup ça
compte.
Change ton regard.
Ouais. Et ça m'a enlevé la légèreté de la création, en fait, de se dire je vais pouvoir trouver justement du bonheur là-dedans. J'avais énormément de mal, et MeToo est arrivé. Et au contraire, c'est rigolo parce que c'est ça, vu qu'il m'était arrivé en fait une agression sexuelle, c'est MeToo qui est venu me sauver d'une certaine manière, car j'ai pas été soutenue en fait au début par ma famille. Et grâce à MeToo, les gens de ma famille qui avaient du mal à comprendre à quel point c'était grave ont pu prendre conscience qu'il avait un gros problème. Et finalement, ça a été le début de quelque chose d'énorme aussi pour moi, de me rendre compte que, ok, il se passe plein de choses négatives, que ce soit dans le théâtre et le cinéma, ce métier en question, mais aussi pour les femmes en général, en fait, dans le milieu professionnel et dans la vie. Et du coup, ça m'a fait tellement du bien, en fait, de me reconnecter à ce milieu par ça, et d'écouter ces paroles, et en fait, ces femmes qui avaient envie que ça change, et de comprendre qu'on avait un problème, et que finalement, l'art, c'était aussi une manière de faire progresser la société. Aussi. C'est ce moment où, justement, il faut qu'on puisse parler pour dire ce qu'on veut, enfin, dans quoi on a envie d'exister, et qu'est-ce qui va exister là-dedans, en fait.
Tu veux dire que quand tu parles d'une agression, c'était une agression qui a eu lieu à ce moment-là, quand t'es revenu à Paris, et sur lequel tes parents t'ont pas soutenu, en fait, à ce moment-là, et ils t'ont pas cru ?
Alors en fait, je suis du coup 6 mois après être rentrée d'Écosse, je passe 6 mois à Paris, je rentre en master, je rentre pour Noël, et en fait, cette personne qui m'a agressée, c'était l'ex-copain de ma sœur, donc c'était quelqu'un
du cercle familial. Okay.
Et j'en profite d'ailleurs vraiment pour dire que souvent on a l'impression que ça va être quelqu'un qui va nous attendre dans un coin sombre de la rue avec un couteau et qui va se jeter sur vous. Ça existe probablement, mais tiers des cas, en fait, c'est souvent quelqu'un qui vous connaît.
De l'entourage.
De l'entourage, exactement. Donc, alors...
Tu t'y attendais pas ?
C'était la nuit, enfin, c'était dans un moment où c'était impossible que je m'y attende. Et vraiment, j'avais pas de lien avec ce mec, de toute façon. Donc, c'était complètement dingue, en fait, que ça arrive, alors que j'étais chez ma sœur, enfin, je pensais être en sécurité. Et en fait, quand je l'ai dit tout de suite, le lendemain, etc., qu'il y avait un problème... Lui a dit qu'il s'en rappelait pas, mais qu'il était désolé. Et en fait, le fait de s'excuser, il arrêtait pas de dire bah, « je suis désolé, je suis vraiment désolé encore, juste j'étais vraiment bourré ». Mais du coup, c'était quand même un aveu de dire « je suis désolée ».
Je l'ai forcé, en fait.
Oui, et en fait, j'étais complètement fou, etc. Et moi, j'étais donc hyper énervée. J'ai dit direct à ma sœur « par contre, tu te sépares de ce mec de suite ».
Ouais.
Et en fait, il y a eu toute une période en fait, de « non, mais ce n'est pas si grave ce qu'il a fait.
Oh.
Ce qu'il a fait, ce n'est pas si grave. Alors, on comprend que tu n'es pas bien, etc. Mais tu te rends compte ?» bon, voilà, les mecs seront des mecs. En fait, il y avait eu tout cet argumentaire.
L'alcool, il était bourré, mais c'est pas quelqu'un de mauvais.
C'est pas quelqu'un de mauvais. Je dis, bah si. Et après, il nous a fait d'ailleurs des aveux. Il a dit qu'il avait un problème avec l'alcool, qu'il voulait se faire soigner parce qu'il avait déjà tapé une de ses ex, qu'il avait mis dans une benne à ordures. Enfin, un truc, un fou.
Ah ouais, clairement.
Et j'ai dit, mais tu vas pas rester
avec cet homme.
Et donc, cette discussion avec ma sœur de tu peux pas rester avec quelqu'un comme ça. Et ça a duré 7 ans, en fait.
Waouh. Et t'es pas allée au commissariat le lendemain? Si.
Ouais. Alors, pas le lendemain, parce que justement, il y avait... j'avais tellement, en fait... moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas du tout, vu que j'étais très, très mal.
Mm.
Mais le fait d'entendre... non, mais c'est pas si grave. Pour moi, c'était...
ça effaçait, quoi.
C'était pas... Enfin, et je me disais, ouais, c'est horrible. Et je... Enfin, vraiment, les premiers mots ont été très violents.
Mm.
Et je suis partie du jour au lendemain de chez moi. Donc, ça aussi, c'était assez violent. Et je me voyais pas prendre le risque de peut-être... faire face à la violence de
des
la police,
flics, en fait. Ouais, voilà, bien sûr. C'est ça. Ouais.
Du coup, ça m'a pris énormément de temps et je me disais, bon, je vais pouvoir gérer ça toute seule. Et après, non, j'y arrivais pas, je perdais énormément de poids, j'étais très mal. Et en allant voir un psy, il m'a dit tout de suite, moi, je peux rien faire pour vous, vous allez porter plainte.
Okay.
Tout de suite. Donc, je vais porter plainte, je préviens ma sœur, ma mère, tout le monde.
Mm-hmm.
Et là, j'ai de nouveau une vague parce qu'elle était encore avec...
elle était encore avec voilà. Son mec.
Je prends une vague de... non mais attends, tu vas pas porter plainte, tu te rends compte, il pourrait se retrouver en prison avec des terroristes. Enfin, tu te rends compte, ouais. Le pauvre. Et je dis mais lui, il sait ce qu'il m'a fait. Enfin, moi je vais m'en rappeler toute ma vie de ce qui s'est passé en fait. Enfin, et je suis désolée mais je vais le faire. Et du coup, bah je l'ai fait quand même.
Mm-mm.
Donc toujours contre un peu, bah contre ma famille.
Contre ta famille. En fait, tes parents se sont rangés du côté de ta sœur, quoi.
Voilà. En fait, en disant bah c'est. Alors eux diront que non, en disant bah ouais. Nous on n'a pas pris parti en fait.
Ah, d'accord.
On ne le voit plus.
Ok.
Mais en même temps bah c'est compliqué vu qu'elle reste avec en fait.
Ah c'était ça. Donc, d'accord. Ils étaient. Ouais mais bon c'était quand même toi la victime. Enfin ta sœur aussi certainement devait être victime oui. De l'emprise qu'il avait
oui,
sur
oui.
Elle.
Et ouais. Il s'est avéré après que il était en fait violent avec elle et que ça a été très dur de sortir en fait de l'emprise de ce mec là. Mais toute cette je m'en sais pas du tout en fait dans un moment comme ça. Je pensais vraiment être soutenue et ça a été un choc d'entendre.
Bah ouais.
Mais vraiment des trucs
comme quoi tu l'avais allumé, c'était de ta faute,
oui, ouais. Que vu la façon dont je m'habille c'est 20%, enfin même des pourcentages, il y a vraiment une logique.
Ah ouais, que presque, ça expliquait.
Voilà, en même temps voilà, et après toujours de déculpabiliser ce qu'il avait fait et plutôt moi de me culpabiliser.
Ah,
du
ouais.
Style bah, en même temps il faut pas boire, moi je fume à côté, donc c'était t'as pris des stupéfiants donc faut pas s'étonner non plus. Mais ça n'a absolument pas joué, enfin je dormais si tu veux quand il est venu m'agresser, donc ça n'a aucun... Et voilà, et quand je suis allée porter plainte, j'ai eu un soutien incroyable de la police, donc je tiens aussi à le dire.
C'est un commissariat à Paris ?
Oui, commissariat du 1er, et aussi je tiens à conseiller le commissariat du 13e, parce que je me suis fait agresser quelques années plus tard dans la rue, et je suis allée directement porter plainte, et j'ai eu le droit à un soutien psychologique gratuit pendant 6 mois. Donc, je tiens à dire qu'il y a un nouveau...
Un renouveau.
Et j'en parlais avec la psychologue, d'ailleurs, en disant, ouais, c'est incroyable, parce que j'étais hystérique la deuxième fois hein, que j'ai dû porter plainte.
Que ça se reproduise, ouais.
Ouais, j'étais tellement énervée en me disant, mais pourquoi ? Mais c'est pas possible. Et directement, elle m'a pris dans son bureau. J'ai pas dû passer devant tout le monde, attendez, je veux porter plainte. Non, elle m'a pris en charge. Et c'est apparemment Macron, alors je lui reproche tout, à part ça. Qui met ça en place pour tout
former les flics.
Voilà. Et pour avoir une cellule psychologique et une assistante sociale dans chaque, normalement, commissariat, pour justement, quand on vient porter plainte, qu'on ait directement une aide. Et après, on peut la mettre en place et avoir un soutien, du coup, psychologique gratuit. Donc, moi, les 2 fois où j'ai eu des problèmes, ça a été vraiment, ils ont toute l'équipe, mais incroyable. Et ça fait partie aussi, évidemment, du fait que j'aille mieux
ouais,
parce que
aujourd'hui parce que ouais
soutien ça c'est bien énorme passé. De ouais, personnes qui sont tout. Voilà qui sont ouais. extérieures et qui en
te
écoutant crois. Voilà
et n'ont te même pas un doute pas de doute et c'est tout de suite légitime
exactement qui le requalifie d'ailleurs en viol et pas en agression sexuelle qui m'explique aussi que certaines attitudes qu'il a eues, le fait de s'excuser, le fait certaines la manière dont il m'a approché, tout montrait en fait que il était complètement conscient en fait. Donc ça m'a vraiment fait du bien aussi de d'avoir une équipe qui me soutient. Après, malheureusement, la plainte n'est pas allée jusqu'au bout.
Ah ouais, pourquoi ?
Parce que on n'avait pas eu de preuves. Il y a pas eu, en fait, pour être vraiment cru, il n'y a pas eu de pénétration avec son sexe. Donc du coup, après, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir ensuite monter ta plainte pour que ça puisse passer. Et qu'on puisse à ce moment-là poursuivre. Donc, c'était malheureusement pas assez de
preuves. Pas assez grave.
Exactement. Par contre, il s'est fait, ils l'ont convoqué au D'accord. commissariat. Ils l'ont quand même, c'était assez pour qu'il se fasse convoquer,
et
mais
puis
pas assez pour être.
Et qu'il a un dossier.
Voilà, exactement. Par contre, là, il aura un dossier.
Et il aura un
voilà.
dossier.
Donc, la prochaine et chose, puis, au moins,
ouais.
c'est ça, quoi.
Si jamais ça se reproduit. Mmh. Et alors, donc, à ce moment-là, t'as quel âge quand cet accident se produit ?
Je viens de. C'est en 2014, donc j'ai 21 ans.
21 ans, waouh, t'es jeune. Mmh. Et t'es avec ton petit copain de l'époque.
Ouais.
Lui, il assure à ce moment-là, il prend ta défense.
Ouais,
il
ouais,
te...
ouais, après, il rentre pas du tout dans un truc de violence ou quoi que ce soit, mais directement, il me dit viens, vu que je suis partie du jour au lendemain de chez moi, il me dit directement viens. Et là, vraiment, mes amis, mes proches, qui connaissaient d'ailleurs. Aussi voilà la dynamique dans ma famille tous m'ont énormément soutenu
ouais.
Et justement par exemple pour porter plainte c'est bien que nos proches
soient là
voilà expliquent ouais. un peu le portrait familial ouais. dans ces moments-là donc là pareil j'ai eu énormément de soutien donc
ouais.
de ce côté-là heureusement en fait ça a rattrapé tout ce que ma famille
ouais.
n'avait pas pu faire
mais ça et ça abîme ton rapport aux hommes et au sexe ou tu réussis quand même à retrouver confiance parce que t'es amoureuse de ton copain et tu retrouves, ça n'abîme pas trop. Non, tu dis que tu perds du poids, donc quand même le rapport au corps est un peu...
Alors, en fait, enfin, après ce mec-là, j'ai eu quelqu'un d'autre là, que j'ai rencontré au Vietnam et, okay. Qui est un homme aujourd'hui que je respecte tellement et qui est tellement sain. Ça m'a fait tellement du bien, en fait, de rencontrer quelqu'un comme ça, alors que j'étais dans un moment de ma vie où, j'avoue que je me disais, tous les hommes ont... un potentiel de violeur en fait et j'avais tort parce que je
on peut pas dire rencontré voilà, ce mec
enfin et je pense aujourd'hui grâce à lui aussi qu'il y a des gens et des mecs qui sont très concernés par ça et qui ont pas du tout envie qui ont envie de nous protéger vraiment et qui vont complètement écouter et d'ailleurs quand j'étais à Hong Kong un mec m'a touché les fesses dans la rue, il était derrière moi, il l'a vu et j'ai même pas eu le temps, j'étais complètement déphasée, je me suis retournée, c'est lui, enfin, il était allé voir le mec en disant mais qu'est-ce que tu fais, ça va, enfin, il s'en était occupé et ça aussi ça m'a fait énormément de bien. Donc non, j'ai rencontré par contre, enfin, j'ai réussi grâce aussi
à lui, réconcilié avec les hommes et l'amour
et aussi avec ma sexualité vu que j'étais complètement fermée, j'arrivais pas alors qu'avant de me mettre en couple, j'avais une sexualité assez libérée,
curieuse.
Je faisais voilà des même je voulais pas être en couple donc j'avais souvent des coups d'un soir. Et après mon premier copain, j'arrivais c'était très 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 difficile et je me disais mais tu vas jamais pouvoir être avec quelqu'un d'autre que lui et il me rendait malheureuse donc c'était assez compliqué et heureusement bah j'ai rencontré après le deuxième gars avec qui j'ai été, on n'est plus ensemble aujourd'hui mais on est toujours hyper proches et ça reste quelqu'un voilà que j'admire énormément et dès que je dois parler de féminisme c'est souvent avec lui que j'en parle parce que justement on se comprend et il n'y a jamais ce truc où il va essayer de m'expliquer de... non il est vraiment bien et je trouve qu'il faut aussi
ouais, bien sûr rendre pour justice ceux qui, carrément pour ceux qui sont qui des alliés
ouais, exactement.
Et donc ok, gros choc. C'est tellement précieux tout ce que tu veux bien me livrer, mais c'est juste que je ne veux pas en perdre une miette tellement je trouve que c'est un parcours hyper intéressant. Donc là, tu décides une nouvelle fois en fait, de t'échapper, de survivre, t'es plus heureuse à Paris. Et c'est à ce moment-là que tu décides donc de partir au Vietnam et là-bas, tu donnes des cours de théâtre en fait, à des enfants, c'est ça ?
Et juste avant, en fait, il y a eu le mannequinat.
Mais oui, il y a la phase de mannequinat. Donc, en fait, tu es dans la rue, tu es scouté par ce mec qui lui-même...
Et voilà, et c'est pour ça, voilà, c'est juste, je fais cette petite petite parenthèse.
Non, mais prends tout ton temps.
Parce que c'était très bizarre. En fait, le moment où je pars et je dis à ma famille, vraiment, on ne se parlera plus jamais, je me dis, bon, bah, t'as plus d'argent, t'as plus... qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne voulais pas du tout aller dans la politique parce que ça m'avait aussi dégoûté les deux ans du master de me rendre compte comment les institutions marchaient. Je me suis dit, tu ne vas jamais... Enfin, non, tu ne seras pas là, tu seras pas bien là-dedans. Je perds énormément, énormément, énormément de poids. J'arrive pas à dormir, en fait. C'était ça, le problème. Du coup,
okay. Là, très, t'as 22 très fatiguée. Ans.
Voilà. Très fatiguée parce que, bah, impossible de me relâcher et de dormir vu que l'agression s'était passée pendant mon sommeil. Donc, du coup, c'était un espèce de cercle vicieux de j'arrive pas à dormir, donc j'arrive pas à manger et ça ne s'arrêtait jamais. Et à ce moment-là, je me dis, putain, j'ai vraiment besoin d'argent, mais je me vois aller dans nulle part. Je me rappelle, j'avais postulé pour Uber au customer service, une horreur. Et en marchant dans la rue, du coup, un mec m'arrête. Au début, j'y crois pas du tout parce qu'il avait l'air vraiment d'un clodo, je vous le dis honnêtement. Et il me dit non, on se voit, etc. Et je vous conseille vraiment de chercher sur Internet avant parce que c'est ce que j'ai pas fait ça. Enfin, il m'avait dit les filles qu'il avait repérées, mais j'avais pas. Enfin, je voyais que ça tenait la route, ce qu'il m'avait dit, mais pas qui lui était. Donc, on se voit une, deux ou trois fois. Il me vend énormément de rêves, mais il n'est pas du tout bizarre avec moi.
Okay.
Il, au contraire, il est plutôt... il n'arrête pas de me dire, moi, je veux prendre mes distances parce que, faut faire attention. Fais attention, ne va pas dans telle et telle soirée. Donc, il me sort des trucs, il faut se méfier de telle ou telle personne. Et je me dis, OK, bon, bah, s'il est comme ça, c'est qu'il est
safe.
Réglo.
Ouais.
Après, il me dit un truc un peu bizarre. C'est pas bien que t'aies un copain, par contre, parce que...
Il sera jaloux, il t'empêchera de bosser.
Exactement. Exactement. Souvent, non, les mecs, après, ils viennent faire chier sur les shoots, etc. C'est pas terrible. Donc ça m'avait un peu mis la puce à l'oreille. Mais si tu veux, je l'ai vu trois fois. Vraiment, le temps de faire trois pots là, il me montre les
agences. Il te demande pas de te mettre à poil ?
Non. Même pas en sous-vêtements. J'ai même pas fait de pola en sous-vêtements. Mais je me rappelle d'une fois où on devait faire des polas un peu plus que pola simple. Et il m'avait fait venir dans son appart et j'avais vachement peur parce que j'étais terrifiée. Donc j'étais dans ce moment de tous les mecs sont des violeurs. J'avais appelé un copain à moi en disant si t'as pas de nouvelles de moi toutes les 30 minutes, tu débarques à cette adresse et tout. Et je me rappelle, il me mouillait les cheveux. Et je sais pas, la manière dont il me caressait les cheveux, il y avait juste un truc qui me dégoûtait. Mais en vrai... C'était rien de à ce moment-là. Maintenant que j'y pense, je me dis heureusement en fait que je l'ai pas vu plus longtemps. Donc je le vois trois fois, j'ai plus de nouvelles.
Et cet homme par contre a été accusé de viol.
Alors ben justement, j'ai plus de nouvelles au bout d'un mois, je me dis qu'est-ce qui se passe ? Plus de nouvelles. Et alors qu'il m'avait promis on devait partir à New York quoi, plus de nouvelles. Je reçois un appel de Silent qui me dit salut Julia, on a reçu tes pola, on aimerait bien te rencontrer. Et je dis, bah, il est où, Johan voilà, c'est son nom. Il me dit, bah, il est en prison. D'accord, donc, bah, viens, on va en parler. Ok, donc, j'arrive et là, on me dit que, du coup, bah, le mec qui m'a présenté à eux est en ce moment en prison pour avoir violé et avoir forcé, en fait, enfin, harcelé des femmes. Je crois qu'il y en avait une trentaine.
Wow.
Et dont des filles connues. Donc là encore, on me dit surtout, ils me disent voilà, nous on va te protéger, etc. Ils essaient de me faire comprendre qu'ils sont hyper choqués, qu'ils comprennent pas du tout ce qui se passe. Vraiment, c'est horrible. Mais ils me disent surtout, tu n'en parles pas. À chaque fois que tu vas dans des castings, tu n'en parles pas. Sauf que on me demande, vu que moi j'avais 23 ans quand j'ai signé, j'allais faire 23 ans. Donc on se disait, c'est qui cette fille ? Pourquoi t'arrives à 23 ans ? Enfin, t'es vieille un peu pour... qu'est-ce que tu fous là, en fait ? Ah, mais parce que j'ai été trouvée il y a quelques mois. Ah ouais ?
Par qui ? Et tu peux pas le dire.
Mais je le dis. Ah, et ouais. À chaque fois, bah...
Tu te rends compte, l'agent Silent qui essayait de te silencer, quand même.
Et
tu craques et tu le dis, tu dis la vérité. Dis,
En vrai, il n'y a pas de... Enfin, il n'y avait pas de... Enfin, les gens savaient très bien. Et en fait, c'est aussi ce dont tu parles. Les mecs qui font de... Tu vois, que ce soit les réalisateurs, les photographes, les agents, les scouts, tout ça, ils savent très bien qu'ils font de la merde. Ouais. Ils savent très bien qu'il y a des abus. Oui. Mais on ne dit rien. Ouais. On cache, on va essayer de le protéger. Bah, alors toi, tu dis pas comment tu t'es fait trouver, tu dis pas, tu n'expliques pas, alors que c'est super grave ce qui s'est passé et que non, au contraire, il faudrait en parler.
Mais pourquoi ? Oui, bien sûr que ça sorte.
Que voilà, c'est pas facile. Je sais que je lance un peu des pavés dans la mare avec tous les trucs qui me sont arrivés un peu noirs, mais il faut, enfin, si on en parle pas, en fait, on n'en parlera jamais. Bien et les sûr. Gens se rendent pas compte que, bah oui, en fait, c'est pour ça qu'on a peur, c'est pour ça qu'il faut prendre en fait des pincettes. Et il n'y avait pas que lui après, en fait, avec le. le temps... Tu sais, parfois, tu avais des scouts qui venaient à l'agence et puis qui te demandaient de faire une vidéo pour un pote à eux. « Oh, juste, fais une vidéo. Joyeux anniversaire, Jérémy. » Et moi, je me disais, mais attends, mais ça va pas
c'est
ou quoi.
C'est pas professionnel. Enfin, ouais.
C'est pas du tout professionnel. Ouais. Et puis, je sais pas, qui ramenaient des filles très jeunes, qui parlaient pas français, tu vois. Tu sentais qu'il y avait des trucs bizarres. Et après, tu en parles avec certains agents et même eux savent qu'il y a un truc qui va pas. Mais... Ouais. Bon, voilà, la fille a l'air consentante. Non,
ben bon. Oh, et t'avais jamais donc, pensé au mannequinat plutôt, parce que pour le dire aux auditeurs, donc ils ne verront pas ton visage, parce que tu sais, le selfie de la vignette, en fait, ce serait une illustration faite par une illustratrice, ça sera super joli. Mais donc, je te décris, t'es excessivement belle. Et donc, c'est au collège, au lycée, plutôt, tu t'étais jamais dit, en fait, que ça pourrait être possible d'être mannequin?
Si, et il y avait déjà des photographes qui m'avaient pris en photo, mais je détestais ça. Et d'ailleurs, ça a été un de mes trucs du théâtre, c'est que j'avais envie de faire des rôles d'hommes, par exemple. C'était les rôles d'hommes qui me plaisaient. Et souvent, ma prof du conservatoire voulait me mettre dans des trucs de jeune première. Et moi, je ne m'y voyais pas du tout et je ne voulais pas du tout exister par ça. Et
par ton physique.
Pas du tout, en fait. Et c'est pour ça que je n'ai pas continué l'agence, même si j'avais des opportunités. Je me suis fait rescouter après pour Marilyn, qui est aussi une très bonne agence. Mais non, enfin...
Tu ne voulais plus être réduit par ça, par ta beauté?
Ouais, non. Déjà que le comédienne, c'était ça, en fait. Enfin, il y avait vraiment ce côté de... Tu pouvais... Voilà, bah, avec ton physique, et alors...
Mais oui, c'est facile.
Mais quand même... Et c'est dommage, il faut entretenir, c'est aussi... Et il y avait un truc où, encore une fois, je ne me reconnaissais pas du tout. Donc, je me suis sentie même assez hypocrite d'aller dans le mannequinat alors que j'étais ultra maigre. Pas par volonté, mais...
Et en même temps, ça tombait à pic.
Et ça tombait à pic aussi. Après, vraiment, j'étais tellement maigre que même mon agence me disait « il faut plus que tu sois maigre comme ça ». Enfin, mais après, je les ai vus aussi mettre la pression à des filles qui
étaient normales.
Et... Donc,
au final, ça...
Ouais, ça contrebalance aussi.
Ouais, t'étais pas forcément poussée à reprendre tant de poids que ça.
Non, pas du tout. Non, pas du tout.
Tu peux donner une indication, genre tu pesais combien pour remettre combien à peu près, tu te souviens?
Donc, je fais 1m76 et je faisais 50 kilos.
Oh, wow.
Et en fait, le problème, c'est qu'il faut rentrer dans les tailles. Les tailles, c'est taille zéro, c'est des prototypes, en fait.
Bien sûr.
Et taille zéro, c'est pas possible. Et je me rappelle d'un boulot pour Alexa Chung. Je sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est une fille très mince. Une Anglaise qui sortait avec le mec d'Arctic Monkeys qui a travaillé pour Vogue. Et elle, elle fait des fringues comme elle est, c'est-à-dire ultra menue. Et moi, je suis assez large, en vrai, des épaules. Et bon, je sais qu'on le voit pas là comme ça, mais j'ai une corpulence en fait, j'ai des os assez
athlétiques.
Voilà, c'est ça. Mais du coup, athlétique, c'est masculin, donc ça va pas tout le temps. Alors heureusement que mon visage est un peu masculin aussi, donc ils mettaient ça en mode, elle est un peu androgyne, on adore. Mais c'est
n'importe quoi.
Non, je suis une femme en fait.
Ouais, complètement.
Il y a pas de, je suis pas,
pas du tout.
Androgyne ou quoi. Même si, oui, allons-y parce que de toute façon.
Oui, pourquoi pas pour la photo.
Voilà, enfin, voilà. Mais après, c'était plus... Non, ils me tardaient d'en partir et ils ont vraiment essayé de me convaincre en me disant « Mais tu te rends compte, là, tu t'en vas avant de faire l'obstacle, en fait. Enfin, ça y est, là, tu vas le passer. » Mais après, c'est pas honteux, mais c'était n'importe quoi. Les problèmes, tu vois, sur des campagnes où « Ah, mais comment ça, tu fais pas de manicure ?» Tous les trucs, enfin, tout ce que je détestais.
Tout ce qui devait te réduire un cliché de la féminité à outrance, quoi.
Alors déjà, dans l'acting, c'était là.
Ouais.
Alors dans le mannequinat, c'est encore plus là, donc c'est pas possible. Et tu dois encore plus fermer ta gueule, en fait. Donc,
et le rapport aux femmes, est-ce que justement, du fait de ta grande beauté, il y avait beaucoup de meufs jalouses dans les cours de théâtre? Où ça allait?
Honnêtement, j'ai eu trop de chance d'avoir ma pote Marion, voilà, qui était géniale et qui me poussait à mort. J'ai eu vraiment des filles, en fait, qui... J'étais une merde dans le sens où j'étais la cagole du Sud, si tu veux. Enfin, donc, il y avait un truc de... peut-être qu'elle est jolie, mais elle est conne, donc c'est pas grave.
Oh, t'étais pas un danger. Et parmi les mannequins, tu t'es fait des copines?
Oui, mais plus dans un sens de...
Soutien.
Alors, certaines, je suis toujours en contact avec elles aujourd'hui et je les trouve hyper intelligentes, hyper marrantes. Et d'autres, parce que je me disais, c'est un autre monde. Elles ont commencé à 15 ans.
Ouais.
Et si tu veux, elles sont... C'est un délire. Elles sont... C'est une autre vie, en fait. Mais c'est aussi des queens parce qu'elles ont dû En fait, elles ont dû tellement se battre, elles ont dû se prendre tellement de harcèlement dans la tronche. Et je pense qu'il y a cette idée de, ouais, les mannequins, elles doivent être tellement, se sentir tellement bien dans leur peau. Et finalement, j'ai vu, moi, énormément de filles se sentir très mal quand on fait les castings pour la Fashion Week et qu'on est 200 à attendre dans le couloir et qu'ils éteignent la lumière et qu'on est dans le noir et qu'ils nous laissent comme ça pendant une demi-heure parce que c'est la pause déj pour eux. Bon, t'es une merde, quoi. Et c'est vraiment, t'as déjà de la chance d'être là, en fait. Sauf que moi, c'était même pas ton rêve de base,
bien sûr.
Moi, j'y allais en me disant, bon, allez, je m'en fous, c'est pas grave.
Ouais, ça faisait des sous, cela dit, c'était
exactement.
Ça. C'est ce qui te liait à ça.
Ouais, voilà. J'ai eu énormément de chance de bosser pas bien. Mal en un an, quoi. Donc, j'étais assez contente. Mais après, non, pas trop de jalousie. Juste des filles qui viennent et qui, dans les premières, 5 premières minutes, c'est avec toi que je vais être. C'est trop rigolo. La semaine dernière, j'étais à New York. Je suis sortie avec Kit Harington. Et toi, t'es là en mode, je comprends rien.
Ouais, trop superficiel pour toi.
Assez superficiel. Ouais. Mais après, voilà, il y a de tout, quoi.
Il y a de tout. Mais en même temps, là où ça tombait bien, c'est que finalement, tu te retrouvais entourée de femmes qui, comme toi, avait certainement dû subir du harcèlement ou des agressions à différents niveaux, mais forcément, quoi. Enfin, déjà, les comédiennes aussi, mais les mannequins, et qui étaient obligés de vivre avec. Et ton copain de l'époque, lui, est-ce que, justement, il vit comment que tu sois d'un coup à ce point dans la lumière et que ça marche, et que tu sois photographiée, glamourisée, il te soutient, il est cool
Là, c'était le moment où ça partait.
Ça commençait à capoter.
Ouais, c'était avant le Vietnam. Du coup, on s'était séparés déjà plusieurs fois. Et je le tenais vachement à distance. Il me disait que j'étais trop maigre, en fait.
Ah, oui.
Il me disait, t'es beaucoup trop maigre. Lui, ça ne lui plaisait pas du tout. Et puis, il était aussi dans un truc où il me rabaissait aussi. Et en fait, j'avoue qu'avec le recul, j'ai reproduit en fait les relations que je connaissais avec ma famille, c'est-à-dire un truc de on s'aime, mais oui, c'est parfois la personne, elle te rabaisse et c'est comme ça. Et du coup, je me disais, oui, en même temps, il a raison, c'est vrai que je suis très maigre. Mais moi, après, j'étais dans mon truc de je m'en fous, là, il faut que je cache.
Ouais.
Et une fois que j'arrive à ma somme, c'est ciao, bye bye de toute façon. Donc, je pensais même pas partir au Vietnam avec lui. Donc dans ce moment-là, je le vois pas du tout comme un soutien, en tout cas avec la rétrospective, quoi.
Ouais, tu survis, tu mènes ta barque.
Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai un espèce de en vrai d'hygiène de vie qui est assez malsaine, dans le sens où je me réveille, je fais du sport, je vais marcher, il m'apprenait à marcher avec les talons, ensuite je vais faire tous mes castings, je rentre, je fume mes pets pour pouvoir m'endormir,
décompresser, réussir à dormir.
Voilà, et manger aussi. Et ça pendant un an, en fait, sans arrêter. Et au bout d'un moment, c'est pour ça que j'étais là, non, mais je n'en
c'est trop.
Peux plus.
T'as pas de suivi psychologique à ce moment-là?
Non, pas du tout. Mmh. Et c'est pour ça aussi, exactement. Ça a été. J'étais dans un espèce de loop de du survie. Et c'est pour ça que je me suis dit, le Vietnam, là, c'est.
C'est essentiel.
C'est essentiel. C'est soit ça, soit je sais pas comment je finis, quoi.
Et la deuxième agression, elle a lieu avant le Vietnam?
Après le Vietnam.
Ok. Donc, le Vietnam, tu dis à ton ex, vient quand même, il t'accompagne au début du Vietnam?
Il vient. J'avais déjà passé 5 mois.
Ok.
Et il vient. 3 mois, après, lors de mes 6 premiers mois, quoi.
Mais c'est fini, toi, tu sais que c'est fini.
Enfin, oui, je lui dis d'ailleurs, prends-toi un appart, on vivra pas ensemble.
Ouais. Il essaye de te rattraper, mais ça marche pas, quoi.
Et puis, s'il essaie de me rattraper, c'était inutile de faire autant de kilomètres pour faire ce qu'il a fait une fois sur place, quoi. Enfin, tu vois, ça y est, c'est bon, je suis là. L'effort est là.
Elle est là, la preuve d'amour.
Non. Donc merci, au revoir. Et voilà.
Et c'était pas trop dur pour toi quand même, alors que le mannequinat cartonnait, que t'as du succès, que tu.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Travailler que tu gagnes beaucoup d'argent, de quand même te dire stop encore une nouvelle fois dans ma vie, j'arrête tout, je redémarre ma vie à zéro.
Non, parce que c'était pas ma vie, en fait. C'était pas ma vie, je savais que c'était pas ma vie. C'était pas ces gens, enfin. Cette espèce de truc, même, tu vois, de on est trop content à la fin du shoot, on boit du champagne.
C'est fake.
Ah oui, moi, je me sentais mettre un masque en permanence, en fait. Je me sentais tellement fausse, mais c'était l'horreur. Donc, non, j'avais hâte de vas-y, pars, tu vas pouvoir enfin peut-être te libérer, savoir ce que tu veux être, savoir qui t'es, et ça va se faire dans un endroit qui est hyper différent du tien, où c'est pas l'Europe, pour justement pouvoir être bien et pouvoir faire une renaissance, en fait, parce que en fait, c'était surtout, c'est les moments où je vais mourir que j'ai besoin de... Allez, on repart à zéro et on peut se réinventer en partant, en fait.
Et là, au Vietnam, tu trouves ce taf, donc avec des enfants, donc oui. A priori, quelque chose d'un peu plus pur, ça doit te faire du bien au début.
Oui. Et par contre, j'étais horrible dans la sociabilisation, donc je me suis vraiment concentrée sur le master. J'ai été prise au début à la fac, donc j'étais super contente de me retrouver à la fac alors que j'y étais il n'y a pas très longtemps. Et puis franchement, en fait, c'est le Vietnam qui... Les gens étaient tellement gentils. Et là, pour le coup, aucune once d'insécurité, aucun bizarre, aucun regard, aucun mec qui me suit, rien, tout le monde hyper gentil, hyper chaleureux, qui t'accueille. Donc en fait, cette espèce d'énergie de personnes qui sont adorables, ça m'a changé de la France, ça m'a changé de Paris, en fait, où tout était dans l'agressivité. Enfin, je me suis dit, c'était le moment de respirer et de faire un peu le point. Après, par contre, je me suis dit, c'est pas du tout pour moi l'éducation, pas du tout.
Tu te lasses à un moment.
Oui. En fait, ça y est, une fois que j'ai compris que je suis rentrée dans une routine, parce que je le fais quand même 1-2 ans, tu vois, après je me dis non, en fait, c'est...
C'est pas assez stimulé.
C'est pas pour moi. Je me vois pas échanger comme... Enfin, non, c'est trop d'énergie. Et les enfants, enfants, c'est l'enfer.
C'est dur, en fait.
C'est horrible. Et
c'est mignon comme ça, mais en fait, c'est compliqué.
Mais vraiment, je tiens à dire bravo à tous les profs de gosses. Parce que c'est...
Les instituteurs.
Tu lâches le kraken, en fait. T'as envie qu'ils soient contents, mais une fois que t'as lâché le kraken et qu'ils sont fous, tu sais jamais comment...
Ils sont tarés.
et j'avoue qu'à ce moment-là, toujours pas de soutien psychologique, donc en fait, j'ai pas l'énergie de faire des trucs comme ça. J'ai pas l'énergie. Enfin, je me retrouve à Hong Kong aussi, en plein milieu des manifestations. Donc, on doit vivre entre les couvre-feux, entre la violence policière, entre toutes ces choses-là, entre... Attention, là, vous allez peut-être pas pouvoir rentrer chez vous parce que les métros sont en train de fermer, vu qu'il y a une manif qui est en train de se faire... Enfin, j'avais trop d'informations qui m'arrivaient. Et en fait, je me disais, encore une fois... T'arrives pas à te poser et à te faire du bien, quoi, et à te prendre une routine où maintenant il faut que tu te poses et que tu réfléchisses vraiment. Voilà, c'est ça.
Mais par contre, tu rencontres un mec super.
Voilà, ça c'était au Vietnam et on est parti ensemble à Hong Kong.
Ok, et lui, il fait quoi ce mec?
Lui, il était dans la restauration.
D'accord.
Et il était au Vietnam depuis plus longtemps que moi. Et il me suit, quoi. Il me dit, allez, je vais tenter avec toi, allez, on part ensemble, quoi. Donc,
Vous tombez amoureux.
Ouais. Oui.
Et donc ensuite, vous êtes ensemble à Hong Kong. C'est une vie qui te convient pas. Vous rentrez ensemble à Paris?
Oui.
Ok. Lui, il bosse dans un resto à Paris ou dans un bar?
Là, le confinement arrive, du coup.
C'est toutes ces années passent.
Voilà.
D'accord. Et c'est juste avant le confinement qu'en fait, tu es à Paris et là, il y a une nouvelle agression qui a lieu.
Ouais.
Et c'était dans la rue, comme ça, quelqu'un que tu connaissais pas cette fois-ci?
Voilà. Et ça, pardon, en fait, c'était le confinement avait déjà...
Commencé.
Je crois qu'on... C'était peut-être après le premier confinement.
Ok.
Et je me balade un jeudi matin. Enfin, un de mes trucs pour, en fait, aller mieux avant, c'était de faire du sport et du coup de la marche. Donc, je faisais de la marche. Et ça faisait partie de mes petits plaisirs de la vie, de marcher le matin, de faire ma petite balade, voilà. Et malheureusement, je me balade dans la rue et à 11h, un mec m'attrape par derrière et me touche la poitrine. Donc, assez long. En fait, je pensais qu'il allait me voler un truc, et non, en fait, il avait...
Juste pour toucher tes seins.
Ouais. Et là, par contre, j'ai réagi tout de suite, parce que ma première agression, vu que je dormais, j'étais tellement sidérée qu'au début, je n'ai pas pu bouger. Et ça, c'est un truc qui m'avait beaucoup culpabilisée, de me dire
t'es
faible, tu n'as pas pu bouger. Et là, j'ai hurlé contre le mec, je l'ai suivi, j'ai pris mon téléphone. Et même lui, il me regardait comme ça. Et au bout d'un moment, il s'est retourné, il m'a dit « Mais casse-toi, je ne te connais pas. » Et il faisait au moins une tête et demie plus que moi. Et là, je me suis mise à pleurer. Et en effet, je me suis dit « En fait, il peut te fracasser. Enfin, qu'est-ce que tu fais là ?» Heureusement, des filles avaient vu ce qui se passait et l'ont suivi. Enfin, j'ai eu du soutien tout de suite. Donc là aussi, encore, par contre, de la chance d'avoir des gens aussi...
Qui réagissent.
Ouais, qui réagissent.
Elles l'ont suivi pour prendre des photos, pour pouvoir l'identifier. Pour lui dire,
On va porter... Enfin, même on va appeler la police, tu restes là, en fait. Enfin...
Mais heureusement que tu t'es dégagée, parce qu'au moment où il t'a pris par les seins, tu penses que ça aurait pu aller plus loin? Tu penses qu'il était prêt à te violer à ce moment-là? Ou juste un mec bourré, un toxico qui...
En fait, ils étaient deux. Et je pense qu'ils étaient assez jeunes, donc je pense que peut-être qu'il y en a un des deux qui a dit, est-ce que peut-être c'était un pari. Je pense pas qu'il m'aurait, enfin je pense pas qu'il m'aurait violé en plein, parce qu'il y avait du monde quand même dans cette rue. Mais je pense qu'il a voulu même tenter de me faire un peu peur ou je sais même pas. À un moment, je crois qu'il a dit à une des filles, je croyais que je la connaissais.
N'importe quoi, connard.
Donc, je sais même pas. Honnêtement, je sais même pas.
En tout cas, tu te défends à ce moment-là, contrairement à la première fois. Tu sais que là, tu es en train de subir quelque chose qui n'est pas normal.
Ouais.
Et là, cette fois, tu... Mais la première fois, tu étais déjà allée au commissariat.
Un an après.
Et là, par contre, il va tout de suite.
Tout de suite. Hystérique. Enfin...
Et là, t'as quel âge à ce moment-là?
Là, c'était il y a 2 ans, donc 27.
Donc 27. Tu vas au commissariat du 1er ou du 13e?
Du 13.
Du 13. Mmh. Là, t'es reçu. Tu retrouves les mêmes personnes qui t'avaient accueilli la dernière fois?
Non, vu que la première fois, donc c'était au 1er. Et là, c'était au 13. Et c'est là que j'ai vu la psychologue.
Ok. C'est là, là où qu'il tu rencontres cette femme.
Ce nouveau dispositif, comme ils appellent ça, qui est mis en place.
Et là, d'un coup, en fait, pour la première fois de ta vie, tu consultes une psychologue, en fait.
C'est ça.
Ok.
J'en avais vu un brièvement qui m'avait dit, moi, je peux rien faire pour vous, faut que vous portiez plainte. Donc, j'avais vu qu'une séance. Et c'est elle qui m'a dit, non, là, il y a des choses à...
Ouais, on va faire...
Parce que là, si vous réagissez comme ça aujourd'hui, c'est aussi parce que ça n'a pas été...
Résolu.
Voilà, exactement. Donc, et j'étais terrifiée, je ne pouvais plus sortir de chez moi à ce moment-là. Donc, c'était très dur pour quelqu'un comme moi qui avait voyagé, qui était partie toute seule, etc. Et elle m'a avoué que, en fait, c'était une psychologue qui aidait pour les victimes du Bataclan. Et elle m'a dit, vous savez, je devrais peut-être pas vous le dire, mais je m'occupe aussi de victimes du Bataclan et ça n'a rien à voir avec la gravité de l'acte, en fait. C'est justement votre cercle de soutien, ce qui vous est arrivé avant, qui va déterminer comment un acte, après, comment une agression, un trauma va pouvoir être pris. Et moi, en fait, c'était le moment où vraiment, là, mon corps, mon esprit, c'était trop. Et vraiment, j'étais très, très mal et j'étais en dépression après cette agression-là qui était moins grave, on va dire.
Ouais, mais tout a rejailli, en fait.
Et puis voilà, ça me rendait dingue. Je voulais plus vivre dans un monde où j'allais me faire agresser en permanence.
Bien sûr.
Quand je fais rien,
Ouais, même à Hong Kong, un gars t'avait quand même touché
à Hong Kong, un gars m'avait quand même touché le cul. Mais qu'est-ce qui... Après, je sais que je suis visible, on me regarde beaucoup. Les gens, souvent, dans le métro, vont me regarder avec insistance. Donc, il y a plein de choses que je dois ignorer déjà. C'est comme ça. Mmh. Sinon, je m'embrouillerai avec tout le monde, donc je dois l'oublier. Mais par contre, qu'on me touche, je sors déjà plus en boîte. Enfin, il y avait tellement de choses où j'ai dû adapter ma vie au fait qu'on ne m'agresse pas.
Ouais,
et de me dire que ça m'arrivait même dans des moments où je suis dans la rue, juste laissez-moi marcher tranquillement.
Mmh.
Ça me rendait dingue, en fait. Dingue de... Je veux pas vivre dans ce monde-là.
Ouais.
Et malheureusement, c'est un truc sur lequel je dois encore travailler.
Ouais,
parce que
c'est récent.
C'est dur, quoi. Et c'est dur de se dire,
ouais,
ça ne s'arrêtera pas.
Voilà, c'est sûr.
Et ce que ma psy m'a dit, je suis désolée, par contre, je peux pas vous dire que ce sera la dernière. C'est bon.
Mm.
Non, c'est pas vrai. Parce que oui, ça va probablement se reproduire.
Ouais.
Et là, c'est là qu'il y a le puzzle qui se met un peu en place de me dire, toutes ces choses n'arrivent peut-être pas par hasard non plus. Et je crois que la manière dont je vais pouvoir m'en sortir, c'est aussi de pouvoir parler et de pouvoir partager, protéger et créer quelque chose pour...
T'engager.
Voilà, aider aussi celles qui n'ont pas eu comme moi attention, ça peut arriver, mais il va falloir qu'on vive avec. Donc retrouver aussi une espèce de légèreté dans tous ces horreurs-là. Et c'est pour ça aussi que ton podcast m'a fait énormément de bien, parce qu'il y avait aussi ce truc de, derrière les choses qui vont être terribles, il y a un moment où il va falloir vivre aussi avec ces choses-là. Et, il va falloir aussi trouver le moment de les dominer pour pouvoir peut-être même en rire, pour pouvoir en faire quelque chose, en tout cas. Et là, j'en suis à ce stade de, je veux en faire quelque chose et ça fait vraiment partie de moi. Et
faut que ça se transforme.
Voilà, faut que ça se transforme en quelque chose...
Mais je vois ce que tu veux dire, et c'est vrai que c'est dans le livre, je parle de ce comédien qui m'avait fait une clé de bras parce qu'il me disait, et c'est vrai, je vois tout à fait ce truc de, en fait, quand tu arrives à saturation, même si comme ça, quand tu lis, ça paraît pas si grave, un mec qui juste crie plus fort derrière toi quand tu joues, mais en fait, c'est quand même une intrusion, il essaye de te voler quelque chose qui est précieux, qui est ce moment de théâtre, et puis, en fait, mais comme toi, il y en a eu plein, et c'est très dur pour moi aussi de pas de faire confiance aux hommes ou à la vie, mais c'est vrai qu'il y a des choses de confiance qui se sont brisées, même des choses que je n'ai pas racontées dans le bouquin, mais même des réals. Quand j'ai fait mon court-métrage, un mec qui voulait m'aider. Moi, en fait, il voulait juste me ken. Il m'a fait bosser 6 mois dans le vide. J'ai pas raconté un... Ça, je l'avais raconté dans Hotline, mais je l'ai pas écrit dans mon livre. L'auteur d'un film adapté de son bouquin qui m'a gardé dans un resto, puis dans sa bagnole, dans un pays où j'avais pas de téléphone, pas de réseau, pas de machin, pour essayer de me persuader de coucher avec lui. Et je flippais. Et c'est des... C'est-à-dire que t'as le mec lambda, puis ensuite t'as le métier de comédienne, et c'est vrai que c'est une accumulation, en fait. Et c'est vrai que MeToo aide beaucoup, parce que juste t'as envie de dire, en fait, il faut croire, et c'est fatigant, en fait, de se sentir objet, quoi.
Oui, mais c'est ça. Jusqu'au bout, en fait. Jusqu'au bout, objet, en fait. Du désir de... Enfin, on peut disposer de nous...
Et j'avais ressenti un peu ce même chose que toi sur mon physique avec le réalisateur. Il n'est pas dans mon bouquin, c'est pas... Parce que celui, le personnage de Rick, c'est une histoire d'amour qu'on a vécue avec le premier mec marié que j'ai rencontré. Même si, bon, on avait quand même un gros écart d'âge et que quand même, il était réalisateur, donc peut-être que certainement, il y avait peut-être une forme de domination, peut-être d'emprise, mais bon, le problème, c'est que si je pense comme ça, je me dis, j'aurais plus jamais... je vais jamais tomber amoureuse de personne, à nouveau. Mais non, l'autre réalisateur, il était vraiment beaucoup plus âgé que moi, il n'avait pas 10 ans... j'avais, je sais pas, 24 ans. Lui, il avait au moins 20 ans de plus. Il venait de divorcer. C'était un autre truc. Et c'est vrai qu'on avait des amis. Mais personne n'avait trop pris ma défense parce que... je pense qu'il se disait... je pense qu'il se disait que je l'avais aguiché ou quelque chose comme ça, ou, tu vois. Mais il y a vraiment ce truc où, en effet... est-ce que j'ai déjà raconté ça en détail? Je me demande si je ne l'ai pas rencontré en outro d'un épisode de mon podcast. Mais en tout cas, c'est sûr que ça m'a quand même aussi aidé d'avoir un psy. Ça aide d'écrire, ça aide d'avoir des ressources et d'entendre des points de vue. Et il y a encore beaucoup de... Enfin, en fait, même s'il y a eu MeToo, il y a encore quand même beaucoup de travail à faire. Parce que tu vois que, en fait, il y a juste des gens qui ne... Bah, oui, qui essayent de discréditer. Et en fait, moi, ce que je veux savoir, c'est où en est la relation avec ta sœur?
Alors, elle s'était séparée de ce mec-là. Je crois que ça a duré 3 ans de plus. Okay. Ensuite, elle a en effet mis le holà parce qu'elle a compris qu'il était aussi violent avec elle, en fait. Et après, il lui a fait très peur. Donc, elle a complètement compris. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle femme.
Ok.
Et ça fait quelques mois qu'on se reparle. Et c'est complètement fou parce que moi, je pensais jamais y arriver. Ouais. Jamais de ma vie, je pensais que ma sœur était vraiment morte. Mais parce qu'en plus, c'était tout pour moi. Enfin, comme je disais plus tôt, nos parents ont divorcé. J'avais 2 ans et demi. C'était ma grande sœur. C'était nous deux contre
celle
le monde.
Celle qui est censée te protéger, en plus.
Et elle a été tellement désolée. Et aujourd'hui, elle a compris. Enfin, elle comprend le féminisme. Elle comprend tellement de choses. Il y a plein de choses qui se sont révélées. Et qui, finalement, ça lui a permis de prendre conscience. Après, moi, je n'oublierai jamais, évidemment, parce que c'est 7 ans de ma vie, quand même. Et puis, 7 ans d'années jeunes, en fait, donc, où j'aurais aimé ne pas passer par là. Donc, forcément, il y aura toujours un peu un truc teinté, dans le sens où aussi, on a loupé 7 ans de nos vies. Donc, notre construction...
tout doit redémarrer.
Tout doit redémarrer, sachant que moi, maintenant, le féminisme fait complètement partie de ma vie.
Ouais.
Et j'avoue que j'ai un peu un prisme sur la société qui passe par ça aussi.
Ouais.
Donc... on sait que nos discussions vont souvent tourner là-dessus. Et puis après, ils savent que moi, je suis sensible sur ces questions-là. C'est-à-dire que tous les débats de on sépare l'homme de l'artiste.
Ouais.
Mais voyons, tu veux pas essayer de refaire des castings de comédiennes? Et je leur expliquais, tant qu'il n'y a pas vraiment quelque chose...
Un travail général.
Un énorme travail, je ne me sentirais pas en sécurité, encore moins là-dedans. Parce qu'en effet, c'est quand même toujours présent, ce truc de... je ne vais pas me mettre dans une situation où... Si tu dois être le désir de quelqu'un, il faut que je sois sûre à 100% que c'est pas une histoire de physique, que c'est pas une histoire de désir sexuel.
Ouais.
Et ça, prendre ces pincettes-là, mais même pas que dans la créativité, c'est tellement lourd. Et je me demandais si toi aussi, est-ce que tu dois souvent le faire, cette espèce de tri de qu'est-ce qu'il veut vraiment, et est-ce que je vais passer à côté de cette opportunité du coup en disant non ou en ne pas rencontrant cette personne? J'avoue que moi, il y a des personnes que j'aurais pu rencontrer même pour développer mes projets, qui font des trucs super que j'adore, mais j'avoue que c'est bizarre qu'ils m'aient contacté,
si,
tu vois.
Ouais. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé de me dire, de croire que c'était professionnel, ensuite ils voulaient juste me ken. Mais en fait, au point que parfois, limite, maintenant, je me retrouve à être tellement parano à me dire, mais il veut me ken. Et que, en fait, non, pas forcément. Oui. Et les résultats, c'est moi qui me fais des films. Mais ça floute un petit peu la relation aux autres. Je crois que, comme toi, je suis un peu traumatisée sur la question du désir professionnel. C'est-à-dire que j'ai du mal maintenant à être peut-être la poupée de quelqu'un et de me dire qu'être comédienne, ça voudrait dire que je vais me faire manipuler. Je crois que, et notamment peut-être par un homme. Enfin, alors après. J'avoue que j'ai aussi rencontré dans ce métier plein de femmes vraiment sacrément perverses et très dominatrices, manipulatrices, malveillantes. Donc bon, en fait, je crois que ce dont j'ai envie aujourd'hui, c'est de chapeauter mes projets et de m'entourer de personnes dont je sais qu'elles sont bienveillantes, tendres, douces, avec lesquelles on ne sera pas toujours d'accord et qui peuvent m'apprendre parce que j'ai encore beaucoup de travail et que étant très sensible et forcément et un peu parano certainement parce que c'est dur de, tu vois, d'avoir une armure, un masque, ou savoir comment se défendre, anticiper les autres. Mais tu vois, mon podcast est hyper précieux parce qu'en fait, personne ne le produit. Je suis toute seule. C'est moi qui choisis, en fait, qui veut. Et ensuite, je prends des conseils. Au départ, c'est mon éditeur qui m'a dit « Tu devrais aller à la rencontre d'électrices. » Tu vois, mon éditeur, super rencontre parce que c'est un homme, en fait, qui est un bel exemple d'homme, tu vois. Donc, ça donne espoir. Et puis, c'est pas quelqu'un d'écrasant. Tu vois, donc en fait, j'ai été libre de maîtriser mon récit. Il n'y a rien du tout qu'il a voulu me faire taire, quoi. Donc ça, c'est trop beau. Et j'essaye aujourd'hui d'être... travailler avec les autres en étant au maximum indépendante, en fait. Pour ne pas me sentir écrasée. Et ça, c'est vrai que c'est un peu plus délicat. Mais quelle relation aujourd'hui tu as avec ton père ?
Alors lui, bon, déjà c'était très compliqué parce qu'il y avait, voilà, le truc du théâtre, ça avait déjà été un premier truc. Ensuite, le fait d'être voilà, raciste avec mes études, enfin, il y avait quand même un espèce de passif où j'en avais marre qu'il me crache à la gueule, quoi. J'en avais marre de me dire, dans la vie, il n'y a pas beaucoup de gens qui me parlent comme ça, et une des personnes qui me parle comme ça, c'est mon père, quoi. C'est un truc de dingue. La personne qui me parle le plus mal sur Terre, c'est mon père. Enfin, je trouve ça dingue. Donc, j'ai eu beaucoup de moments les 10 dernières années où je ne lui parlais plus. Et quand j'étais au Vietnam, il y a eu un moment où j'ai explosé, où tout est sorti de tous les côtés. Mais t'aurais dû me défendre à ce moment-là.
Ouais, costumes, tu l'as confronté.
Ah ouais. Mais c'est sorti...
D'un coup.
D'un coup. Et donc tout un peu en hurlant. Donc, évidemment, je ne me suis pas fait entendre à ce moment-là. Donc, plein d'années, il est venu au Vietnam, on ne s'est pas vu. Ça a été hyper bizarre. Et je revenais dans le sud, je ne le voyais pas non plus. J'ai perdu mon arrière-grand-mère. Enfin, je ne suis même pas allée à l'enterrement pour ne pas le voir. J'ai encore loupé beaucoup de trucs parce que je me mettais à dos ma famille. Récemment, je me suis posé beaucoup de questions sur justement les injonctions aussi à s'entendre bien avec sa famille, sur le fait de toujours devoir pardonner, en fait, et c'est toi la bigger person, si tu pardonnes, c'est toi la plus grande, il faut pardonner, etc. Tu verras, ça va t'apporter du bien. Et c'est un truc que je suis en train d'expérimenter dans ma vie, dans le sens où, non, pendant des années, ça me faisait pas du bien. Je voulais pas pardonner du tout. En fait, le pardon, ça fait pas forcément du bien. Je trouve ça très, peut-être, chrétien, d'une certaine manière, de tendre l'autre joue, de allez-y, on pardonne. Oui, mais du coup, on cautionne aussi. Ouais. Et voilà, on sacrifie. Et ces espèces de comportement, en fait, continue sans arrêt. Il y a un moment, si tu pardonnes tout le temps, pourquoi c'est toi là ? Il y a un truc finalement qui, aujourd'hui, je trouve bizarre.
Que finalement, si les gens ne sont pas punis pour leur comportement toxique, pourquoi ils ne les reproduiraient pas à l'infini ?
Et en fait, c'est ça, il faut travailler là-dessus, c'est sûr. Accepte que de toute façon, en gros, tes parents ne seront jamais les parents que tu voulais avoir. Ton père, il ne sera jamais le père dont tu as besoin. Jamais, en fait, c'est comme ça. Donc, c'est soit tu l'acceptes, soit t'es en guerre toute ta vie, en fait. Et j'avoue que la guerre, au bout d'un moment, là, il faut que je mette mon énergie, en fait, dans projets que je veux concrétiser. Et j'ai passé 10 ans, justement, là, à me battre, je vais où, je fais qui je suis. Que là, c'était aussi un peu... Là, c'est un moyen, je le reparle du coup, un petit peu. On se revoit...
petit à petit.
Ouais, vraiment petit à petit. Bon, après, lui, il m'a dit, cet été, pars avec moi. On va faire un tour en bateau.
Pourquoi pas ? Non, tu crois pas ?
Il va y avoir un meurtre dans la crique. Meurtre dans la crique. Un corps, si je disparais. Non, je n'irai pas de façon. Parce que justement, je pense que là, c'est des forfaits. Vaut mieux qu'on fasse, en fait. Il y a des gens, voilà, lui, ce sera 2 heures. Ce sera un forfait 2 heures. Il y a des gens, ce sera 15 jours. Tu vois ce que je veux dire ? Des gens que tu peux supporter. Au bout d'un moment... Il va y avoir ce truc et ça va partir.
Et la bonne nouvelle, en fait. Julia, c'est que t'es hyper forte quand même. Tu dégages une énergie de dingue.
Ah bon ?
Oui, je t'assure.
En vrai, je travaille moi sur m'excuser beaucoup moins parce que je m'excuse énormément et à essayer d'être justement plus sûre de moi. Et c'est toi aussi qui a été un des déclencheurs dans ma vie.
Tu découvres comment en fait le livre ou le podcast ?
Podcast.
Ok.
Il y a, je pense, en fait, du coup, je ne pouvais plus sortir de chez moi, comme je te disais, et j'arrivais plus à sociabiliser, j'avais tout le temps peur, enfin, je me sentais très mal, et aussi, j'ai un peu un problème, c'est que souvent, j'ai du mal à trouver les gens très intéressants, je vais vite m'ennuyer, donc j'avoue que tes podcasts, c'était la sociabilisation que je n'avais pas dans ma vie, en fait, donc j'écoutais tout, et au début, pour être complètement honnête, j'ai eu un choc, je me disais, mais c'est qui cette fille ? Mais c'était un choc de... Je crois que ça m'a renvoyé à moi une image de ce que je ne pouvais pas me permettre, en fait. Donc, j'étais un peu mal à l'aise, mais absorbée par ce que tu faisais. Et j'étais avec mon ex à l'époque. J'ai découvert ce podcast de cette fille. Il y a des moments où je suis mal à l'aise, mais je suis complètement passionnée aussi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Elle me rend dingue. Et j'écoutais tous tes épisodes et je me disais, mais il se passe un truc où je te trouvais d'une certaine... Il y avait une folie, en fait. Complètement une espèce de folie qui était complètement rafraîchissante, en fait. On n'entendait pas ça, on n'entendait pas ces discours. On l'entendait un peu aux États-Unis ou chez les Anglais. Il y avait quelques Anglaises, quelques Américaines, je trouve, qui commençaient à porter ce genre de discours. Mais toi, t'osais poser des questions, mettre mal à l'aise. Au début, les mecs qui étaient invités, je me disais, mais elle est folle, j'aime trop. Et en fait, cette espèce de... Justement, tu penses que je suis forte. Moi, je me disais, je veux être comme elle. Enfin, pour moi, c'était je veux cette force-là de... je dis les choses, je suis légitime, j'ai le droit de le dire. Et puis, tous ces trucs de, si j'ai pas joui, je vais me toucher à côté, qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, c'est ce truc de, je suis légitime d'exister, je suis légitime d'avoir des envies, je suis légitime d'être là, de poser ces questions. Oui, je suis légitime de parler de sexe, oui, je suis légitime de créer, oui, je suis légitime de faire tout ça. Et il n'y a pas de honte à avoir et il faut être là. Et en fait, c'était, elle le fait. Et tu le fais aussi, pas dans la vulgarité, tu le fais pas dans... Poussez tous, c'est moi, c'est Rosa, je suis incroyable. Regardez, pas du tout, t'es tout le temps en train d'évoluer. Il y a plein d'épisodes où, d'un épisode à l'autre, en fait, tu vas revenir sur tes propos. En fait, ta pensée, elle est en évolution et du coup, t'es ultra vrai. Et ça, déjà, d'avoir quelqu'un qui est vrai, qui est bon, qui joue pas un rôle, qui est complètement là et qui arrive à être courageuse en plus. Mais c'est ce dont j'avais besoin. Donc là, t'es un peu mon modèle, en fait, depuis 2 ans. Et plein de fois, quand j'en... Même au travers de tes posts ou quoi, où tu dis, est-ce que miroir, tu vois, récemment, t'as fait cette caption sur Insta. Même ça, je me dis, mais oui, mais il y a tellement, en fait, tu viens mettre des mots sur des petites zones d'ombre dans ma tête et ça me permet d'être inspirée et de me dire, allez, il faut que tu le fasses. Et là, c'est vraiment toi qui m'as permis de faire ce lien vers autre chose, d'être prostrée et être vraiment mal et être enfermée chez moi et à me dire, ça va être comme ça toute ma vie. Non, va chercher justement la force ailleurs et vraiment, je suis tellement choquée de passer de mon salon à être en pyjama complètement mal, à écouter et là, être là en face de toi et de partager ça avec toi,
c'est dingue.
C'est complètement fou et merci parce que...
Merci à toi.
Non, franchement, sans toi, je sais pas, j'aurais pas eu ce renouveau, quoi. Donc là, ça a été toi un peu...
Moi, sans toi aussi, parce que d'une certaine manière, à chaque fois que je faisais des épisodes, je rêvais en fait que ça touche, tu vois, quelqu'un. Tu vois, j'étais aussi seule et je pense que je me disais, je continue parce que j'espère que ça fera écho et que c'est pas dans le vide, quoi. Tu vois, c'était vraiment, je me disais, allez, à travers ce podcast, il y a forcément quelqu'un qui m'écoute quelque part sur Terre, quoi. C'était un peu ce truc. Alors, je ne l'ai pas vécu encore de façon romantique, mais je me souviens dans Les Demoiselles de Rochefort, T'as Delphine qui rêve de Maxence. Oui. Et donc, en fait, ils se rencontrent jamais, mais ils rêvent chacun l'un de l'autre. Et en fait, lui, il dessine son portrait.
Elle est magnifique, sa chanson, en plus.
Bah ouais. Oui. Et en fait, j'avais un peu ça avec les auditeurs du podcast. Je me disais, je rêve, en fait, qu'il y ait des personnes vivantes qui reçoivent. Et puis, je me disais, ma conviction, c'est que... En fait, il faut peut-être décomplexer les moments où on s'en fout, folle. Tu vois qu'en fait, c'est humain. Tu vois, en fait, c'est humain, il n'y a pas de honte. Et qu'en fait, on vit tous des moments de lose. Et je me disais, pourquoi ça, on n'y a pas plus accès ? Parce que le problème, c'est que oui, tu as des documents, des choses sur la santé mentale, mais même, c'est vite médical ou théorique. Et ensuite, tous les trucs de divertissement. C'est beaucoup de gens qui ont l'air d'être les meilleurs amis du monde.
Oui, c'est ça. Enfin,
ouais. Donc, c'est que de « ah, 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 on s'éclate, et qu'est-ce qu'on est drôle, et qu'est-ce que... » Et chez les Américains, moi, c'est ça aussi le truc, c'est que je trouvais qu'ils assumaient vachement quand même de parler de trucs très sombres, tu vois. Des épisodes où ils parlent vraiment de l'addiction et de la peur, de l'échec. Et moi, parfois, j'avais des invités qui me disaient « Mais Rosa, t'es... Est-ce que tu serais pas un peu obsédée par la célébrité, par l'idée de percer ? Est-ce que t'es pas trop ambitieuse ? Mais en fait, moi, quand je parlais de célébrité ou d'échec, c'était pas... je cherchais un moyen d'exister et je pense que j'avais envie de dire la vérité, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que c'était des questions aussi que tout le monde se pose et que personne n'ose dire. Tu vois, quand je posais des questions sur la célébrité, c'était aussi parce que je me mets à la place de n'importe quel auditeur, alors que c'est plus une question peut-être légitime pour la personne qui a percé, qui est connue, mais tous les interviews de gens connus se parlent comme si ils étaient tous dans la même soirée, enfin en fait de gens connus avec la même vie, tu vois. Mais c'est pas rien en fait d'un coup de te dire ah ok, tu vois, si j'arrivais avec une personne qui était là qui remplit des salles de 1000 personnes, tu vois, j'avais envie de poser genre c'est quoi l'effet, c'est quoi la sensation, et pas rentrer dans des trucs aussi trop hypocrite, en fait, tu vois, en fait, tu fais ce métier pour toucher les gens, tu fais ce métier pour rencontrer les gens, tu vois. Mais là, aujourd'hui, de te rencontrer, franchement, et de jouer mon spectacle et d'aller à la rencontre des spectateurs, je me dis, bon, je crois que je peux me dire que j'ai réussi ma vie.
Oui. Franchement. Mais réussi. Moi, j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer ensuite, même. et j'espère vraiment que tu lâcheras jamais ce podcast parce que, justement, c'est des pépites. Là, je suis obligée de réécouter les anciens épisodes et tout. Et c'est génial, d'ailleurs, d'écouter ta progression. Et heureusement que tu l'as fait. Enfin, merci de le faire et merci de continuer. Merci de le faire évoluer, de vouloir l'amener ailleurs et de te rendre compte que tu fédères des gens et qu'il y a justement une vague, en fait, qui se crée aussi. Enfin, je me rappelle même du début de tes podcasts où tu étais là, oh, je vois ce commentaire, cette personne-là, elle a bien critiqué. Ouais. Non, mais vous voulez quoi au bout d'un moment ? Et même ces moments de pétage de câble. Et là où tu en es aujourd'hui, je me dis, mais c'est génial tout ce que tu as fait, que tu n'es pas lâché et que tu aies eu raison. Parce que, en effet, moi, dans ces moments-là, au début, je n'osais pas du tout parler parce que je n'osais vraiment pas même afficher quoi que ce soit. Et en effet, tu faisais énormément de bien. Moi, tu me faisais énormément de bien, tu vois. Donc, j'espère vraiment que ça va pouvoir continuer et que tu vas pouvoir faire d'autres choses parce qu'on en a vraiment besoin. On a besoin d'entendre, en fait, cette voix-là, quoi.
Donc, non, mais je vais continuer. Et toi, aujourd'hui, ces projets, tu veux vivre à Paris ou tu veux vivre à Barcelone ?
Paris, je crois que j'ai encore du mal, pour être vraiment honnête.
Ouais, c'est dur.
C'est pour ça, le sac, voilà. Enfin, là, on ne peut pas le voir, mais j'ai un sac en carton. Qui est tout froissé. C'est un peu moi, une fois que je suis passée à Paris, j'arrive toute propre. Et puis après, j'ai l'impression de passer dans une machine à laver un peu horrible. Mais après, je vois qu'il y a un côté sympa. C'est vraiment recoucher avec un ex, quoi.
Ouais, c'est bien. C'est une belle image, c'est vrai.
C'est ça, quoi. T'es beau, mais... Mais tu me fais plus bander, quoi. Donc
Barcelone, peut-être, les Canaries ?
Barcelone, les Canaries, j'ai essayé 6 mois et c'était, pour le coup, trop de nature et trop touristique, donc pas assez d'offres culturelles. Et c'est ce que je te disais aussi, niveau sociabilisation, il y a un moment, il faut que j'arrête d'écouter les podcasts parce que c'est que dans un sens. Donc, il y a un moment, il faut que je rencontre aussi des gens, justement, si je veux faire mes projets, etc. Ouais. Mais bon, voilà, il y a toute une conscience.
Et aujourd'hui, tu as un copain ?
Non.
Non. Non, bah, non, ça fait du bien. Cela dit, tu as été beaucoup maquée, donc c'est bien aussi.
Exactement. Ouais. Les 10 dernières années, presque 8 ans. Donc là, je me dis, là, il faut te redécouvrir, reprendre la force que j'ai, justement, me redécouvrir dans ma féminité après tout ce qui s'est passé. Pas forcément être en couple et vraiment voir qu'est-ce que j'ai envie, de quoi vont être faites les 10 prochaines années, et en espérant pouvoir développer mes projets.
Et tu as une idée sur ces projets ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui, toi ?
Eh bien, en fait, j'ai plein d'idées que je note depuis 2 ans. Et j'ai, tu vois, mes notes dans mon iPhone qui sont... C'est plein, mais pour le moment, je n'arrive pas du tout à penser à un format qui serait bien. Je ne me vois pas du tout être... Enfin, il n'y a pas de format pour le moment qui m'inspire et qui pourrait... tu vois, enfin, que le concept prenne place dans ce format-là. Je me vois pas du tout en faire du YouTube et faire du facecam. Coucou les copains. Enfin, j'ai énormément de mal avec ça. En fait, j'ai envie de faire des vidéos sur certains sujets, un peu comme des petits reportages, mais je sais pas encore exactement comment mettre tout ça en place. Et là, je veux vraiment apprendre déjà à filmer, à monter, à faire toutes ces choses-là. Enfin, quand je pense que même toi, tu fais tout...
Toute seule. Ouais, mais c'est possible, en vrai. Ben voilà. Hein, tu sais, c'est pas si compliqué. C'est tout à fait possible de lancer son podcast. Et peut-être que, justement, tu pourrais faire quelque chose qui... Peut-être qui viennent en aide aux femmes. Ou, tu sais, j'ai rencontré récemment Inaé. Si jamais ça t'intéresse, en fait, c'est En Avant Toutes. Donc, En Avant Toutes, c'est un Instagram. Elles ont un site internet, Comment on s'aime, avec un chat.
Hotline, je l'ai écouté l'épisode.
Ah oui, tu l'as écouté l'épisode de vendredi dernier.
Oui.
Bah, ça se trouve, si tu faisais peut-être, mais je sais pas si ça te plairait, mais je sais pas si c'est une formation dans le social, mais pour venir en aide à des nanas à qui c'est arrivé la même chose que toi, ou peut-être un podcast avec des mannequins, des ex-mannequins, ou un, tu vois, et que chacune vienne raconter son histoire, là d'où elle vient, ce qu'elle a fait.
Ben, le truc, c'est que je me sens pas légitime non plus, dans le sens où j'y suis restée qu'un an, en fait. Enfin, même moins qu'un an, en vrai. J'ai cassé mon contrat avant. Donc, j'ai un peu ce truc de... Alors oui, j'ai fait 2 campagnes, mais après, j'ai l'impression de pas être légitime. Enfin... J'ai pas fait ma carrière là-dedans, donc j'ai peur d'être un peu coucou les filles, c'est moi, et qu'elles se disent mais c'est qui cette meuf, j'ai pas de légitimité à leur demander ça, en fait. Et après, je pense que ça pourrait être le début d'un angle, mais en fait il y a aussi tellement de choses. J'espère ne pas, en fait, me bloquer sur quelque chose en particulier, mais c'est vrai que c'est un angle, ça peut être un angle pour commencer, quoi.
Ouais, ou moi je te vois bien même, en fait, réaliser un film.
Oui.
Bah, peut-être que c'est ça, peut-être qu'en fait t'étais pas faite pour être plus actrice, mais plutôt réalisatrice. Peut-être que t'as besoin d'être dans une position de lead.
Oui.
Tu vois.
Ça, c'est sûr que de plus en plus même, mais tu vois, de déconstruire ça, c'était compliqué, je trouve, de se mettre directement, en fait, dans une position d'actrice, et du coup de quelque chose de passif. Enfin, je veux pas dire passif, parce que c'est pas passif non plus, on peut pas dire ça non plus, mais en fait, ça, j'ai eu un peu ce même rapprochement avec la politique, de me dire mais Macron ou Trump, c'est pas des mecs non plus. Enfin, c'est pas un truc de prétention que j'ai, mais c'est de me dire, plein de fois je me suis retrouvée, en fait, professionnellement, avec des mecs qui étaient pas forcément hyper compétent, et je me disais mais qu'est-ce qu'ils foutent là, en fait, comment c'est possible que ce mec soit là. Et même créativement, plein de fois je me dis mais comment ça se fait que cette personne soit là, c'est pas possible. Enfin, et j'avoue que ce truc là ça m'a fait me dire fais-le, toi, si t'as envie de dire un truc, si t'as envie de faire un truc où t'as l'impression que ça pourrait être fait pas d'une meilleure manière, mais différente en tout cas, allez, il faut le faire, quoi. Et je t'avoue que là, encore une fois, c'est toi aussi qui m'a poussé de justement, n'attends pas qu'on vienne te chercher, n'attends pas qu'il y ait un projet où tu vas pouvoir t'insérer, où tu vas pouvoir encore une fois essayer non, fais ton truc et vas-y à fond. Et c'est pour ça que là même je me dis je vais peut-être rester un peu à Perpignan pour économiser et pour pouvoir justement apprendre tous ces trucs sur le côté et monter mes projets de là-bas, vu que tout peut se faire aujourd'hui à distance. Donc ce serait un petit sacrifice, parce que là-bas c'est pas trop mon truc, mais
c'est une étape.
Voilà, exactement. C'est comme ça que je le vois, exactement.
De toute façon, tu me donneras des nouvelles, on va rester en contact, parce que je pense que les auditeurs auront régulièrement de tes nouvelles et savoir ce que tu deviens. Donc il faudra que je leur transmette. Avant de finir, je vais passer au questionnaire de Proust.
J'allais dire sur YouPorn ou un J'ai repris ma carrière de comédienne. tellement mignonne, j'en reviens pas.
Ça pourrait durer des heures, mais...
Mais évidemment, ouais, désolée de...
Oh non, 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 mais c'est moi qui suis obligée de m'arrêter. Mais de toute façon, on va rester en contact, Julia, ça c'est sûr.
Mais moi, je te...
C'est un lien qui est maintenant, qui est pour toujours.
Attention, je vais compléter l'hôtel chez moi.
Je n'ai pas peur. La qualité que tu préfères chez un homme ?
L'écoute, probablement. Ouais. Parce que l'écoute, c'est ce qui manque terriblement. Donc, l'écoute vraiment sincère, entière. Et la curiosité dans l'écoute, c'est-à-dire vouloir écouter, vouloir savoir ce que tu veux dire.
La qualité que tu préfères chez une femme ?
Je crois que c'est la folie.
Ouais !
Vraiment, la folie.
Le principal trait de ton caractère ?
Franchement, ça pourrait être le doute en vrai, mais je dirais que je suis optimiste, mais toujours dans la désillusion. Donc ça me correspond assez bien, ça. De vouloir quelque chose de mieux, mais de voir toujours la merde finalement.
Réaliste.
Voilà, réaliste.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ?
Leur patience, je crois. Leur patience de justement tous les trucs par lesquels j'ai pu passer. Ils m'ont toujours soutenu et il y a une espèce de loyauté et patience que merci quoi de donner ça.
Ton principal défaut ?
Là aussi, perfectionniste. Non, peut-être trop pessimiste et parano, justement. Ce qui fait que c'est quand même toujours avoir les choses d'une manière terrible. Et ça amène le doute, justement, ce pessimisme. Donc,
Ouais, mais bon, vu ton histoire, on comprend que tu sois vigilante.
Ouais, aussi, ouais.
Ton occupation préférée ?
J'en ai plein, mais je crois que vraiment, si à la fin de la journée, fumer mon petit pet, écouter ma musique, caresser mon chat, je pense que ça fait partie de mes activités favorites, qui me font le plus de bien en tout cas.
Et donc ton idée du bonheur ?
C'est d'être libre en fait, de plus se poser la question de machin, est-ce qu'on va penser, juste d'être libre avec qui et bien avec qui t'es en fait.
Et puis t'es jeune, t'as quel âge là aujourd'hui ?
Je vais faire 29.
Ouais, t'es jeune, tu te rends compte, t'as même pas 30 ans, quoi. C'est trop bien, t'as une flamme.
J'espère, ben, il faut la cultiver, quoi.
Ouais.
Faut la cultiver.
Quel serait ton plus grand malheur ?
Très bonne question. Honnêtement, je crois que ce serait qu'on tombe dans quelque chose justement de politique d'extrême en fait, et qu'on tombe dans un obscurantisme en fait, que tous ces efforts qu'on a fait toutes ces années, que ça retombe en fait. Ça c'est quelque chose, je pense, qui me rendrait très malheureuse, parce que ça m'a tellement fait du bien en fait de voir
la libération de la parole, de
voir quelque chose qui s'enclenchait, que j'espère vraiment que en fait, l'espèce de pouvoir de vouloir garder souvent les systèmes en place, il ne va pas être assez fort pour nous faire repartir en arrière, sachant que...
Aux États-Unis, les lois sur
l'IVG... Voilà, exactement. Ouais. Ou même que, tu vois, quand on va parler féminisme, on a quand même « Ah, féminazie !» alors que bon, féminisme ne tue pas, quoi.
Enfin, mais bien sûr.
Donc, ouais, voilà, juste j'espère qu'on va, vers le, voilà, vers le bon côté.
Ouais. Ton repas préféré ? C'est une question que je pose peu, en fait.
Ben, on mange pas les mannequins, on bouffe que nous. J'ai trop de trucs, trop de choses. C'est impossible de choisir un plat. C'est comme un film. On peut jamais choisir un film ou une musique. Ça dépend vraiment des ambiances. Le Vietnam, tu vois, ça m'a tué 3 ans au Vietnam. Les soupes, les trucs, c'était fou. Et en même temps, je vais pouvoir me faire des gros bics. Enfin, franchement, j'aime tout. J'aime la bouffe. C'est un des trucs qui me rend heureux dans la, enfin, qui me rend heureuse dans la vie. Donc là, à choisir, ce serait la lasagne de ma mère, tu vois. Enfin, parce que c'est voilà, c'est le souvenir, c'est le goût, c'est tout ça, et que tu peux jamais la reproduire chez toi, en fait. Donc,
et tu continues à faire beaucoup de sport ?
Ouais, ça, j'avoue.
Il faut que tu me donnes des conseils.
Oui, par contre, ouais, j'ai gardé le sport, mais c'est aussi un truc de, je pense, de me dépenser parce que ouais, il faut que je puisse dormir aussi. Donc,
et tu fais quoi comme sport?
Je marche et je déteste les gyms, donc je fais du sport à la maison. C'est pour ça, si tu veux, on se met en Skype et,
bah oui.
Et c'est parti.
Ouais, tu vas me motiver. Non, je pense que j'aurais vraiment trop honte devant toi de faire du sport.
Mais non, mais pourquoi?
Parce que c'est calamiteux.
Mais non, mais attends, je crois que tu te rends pas compte comment j'étais avant, par contre. Je te jure que j'étais pas du tout sportive. Puis après, je te jure qu'au bout d'un moment, on y prend goût. C'est pas une blague.
Il faut que j'y arrive à ce moment-là.
Oui, et je te jure que c'est pas un truc de j'essaie de vendre une formation à 2 balles. Vous allez voir, à un moment, vous allez y arriver.
Non, je vais convertir mes points CPF. Voilà, c'est ça.
Je te jure qu'il y a un moment et tu vas dire ouais, en fait j'ai envie ce matin, je veux faire mon sport, tu vois, enfin je sais pas, je sais que ça paraît fou comme ça, mais c'est la
j'espère
vérité.
Y arriver un jour, ça m'aidera parce que vraiment j'ai vraiment un corps de merde.
Et puis voilà, on peut, tu vois, sauver, allez, on met un point contre le patriarcat, un point contre, aussi, un point contre lui, on peut, tu vois, se designer un petit cours
carrément
de sport.
Ah oui, ça te saurait que j'aurais envie de mettre des points.
Voilà,
c'est que tu détestes par-dessus tout.
Là aussi, il nous faudrait une après-midi en vrai, mais je déteste, je crois, les gens qui te disent comment faire alors qu'ils n'ont aucune idée de ta réalité. Aucune. Donc ça peut aller des politiciens qui vont dire « Mais enfin, des boulots, il y en a plein la rue. Attends, il y en a qui arrivent. Hein, c'est que le racisme n'existe pas alors qu'ils n'ont aucune idée. » Ou qui vont me dire « Mais oh, n'aie pas peur. » Mais voyons, n'aie pas peur, tu t'en fous. Allez, va rejoindre ce photographe dans le 96 que tu ne connais pas. Hein, tu ne sais pas, tu ne connais pas la vie des gens. Tu n'as même pas pris le recul d'avoir de l'empathie. En fait, les gens qui n'ont aucune empathie et qui se permettent en plus de donner des leçons. J'avoue que c'est quelque chose qui... Là, c'est mon truc du moment. Et les gens qui marchent lentement dans la rue. Voilà. Et en ligne. Et en ligne. Pourquoi vous marchez en ligne, putain? Vous prenez toute la place.
Parce que c'est des moutons. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire, les gens lents, moi aussi, ça m'agace. Et aussi, ouais, les gens qui se mettent pas à ta place et qui... c'est des bonnes réponses. Et enfin, est-ce que t'as une devise?
J'ai un milliard de trucs cucu reliés à mes tatouages. Alors, quand la vie va pas, c'est que ça va aller après. Quand on n'est pas en haut, on est en bas. Mais je pense que quand même, je garderai cette image de la lumière, en fait, de... C'est Lumos d'Harry Potter qui est en fait dans les moments les plus noirs. Rappelez-vous d'allumer la lumière ou de rallumer la flamme. Et justement, tu vois, la flamme dont tu parles, justement, c'est un truc que j'essaie toujours de cultiver, même dans les moments les plus noirs, quoi. Donc voilà, garder la lumière.
Et là, ton état d'esprit actuel, tu vas faire quoi tout à l'heure en sortant?
Là, je pense qu'il va me falloir 4 jours pour me remettre.
Et voilà, et puis ça a coupé en fait, l'épisode s'arrête parce que l'enregistreur n'avait plus de batterie, j'avais une sauvegarde sur l'iPhone, mais pour vous dire, voilà, ce que je mets pas de la fin de la discussion sur l'iPhone, c'est qu'on s'est redit merci, qu'on était heureuse de cette rencontre et qu'on s'aimait beaucoup, et voilà, je suis très reconnaissante à Julia pour ce témoignage extrêmement poignant. Par rapport à tout ce qu'elle a confié sur ce qui lui est arrivé, ses agressions sexuelles, si vous êtes dans des situations compliquées, n'hésitez pas à vous confier sur le chat du site internet Comment on s'aime, d'en avant toute, ouvert du lundi au samedi de 10h à 21h. Attention, le chat n'est pas un dispositif d'urgence. Si vous vous sentez en danger et que vous avez besoin d'une intervention, appelez le 17 police secours ou envoyez un SMS au 114 ou rendez-vous directement dans un commissariat. C'est pas toujours une expérience traumatisante. Julia, elle, a bien été reçue au commissariat du 1er et à celui du 13e arrondissement de Paris pour sa deuxième plainte. Elle a pu recevoir un soutien psychologique gratuit pendant 6 mois qui l'a beaucoup aidée. Voilà, donc n'hésitez pas, je me permets de rappeler ces éléments. J'avais déjà parlé d'en avant tout dans l'épisode avec Estelle, et voilà, et là je le souligne parce que voilà, ce sont des épisodes assez bouleversants et puis qui racontent tellement aussi, en fait, mine de rien, du métier de mannequin. C'était vraiment vraiment intéressant d'avoir sa perspective aussi. Le chemin parcouru par Julia, ça me donne envie d'avoir d'autres témoignages de top modèles qui viennent parler. C'est bizarre, on voit que le côté défilé. Ce que raconte Julia, de elles qui sont parquées dans une pièce, la lumière éteinte. Enfin, c'est des images complètement affolantes, le poids qu'elles faisaient. Enfin, en tout cas, je trouve son parcours hyper inspirant. Je la trouve extrêmement courageuse. Puis elle garde son humour jusqu'au bout. Et voilà, j'avais vraiment envie de finir cette édition des Auditrices Anonymes avec le témoignage de Julia, parce que je trouve ça intéressant, en fait. C'est ces autres routes que Julia ait commencé par un conservatoire d'art dramatique et puis que finalement, les profs, le cursus, ça l'ait dégoûté et qu'elle ait fait autre chose. Enfin, mine de rien, dans mon podcast, je reçois des gens qui, parfois, ont fait avec, en fait, sont rentrés dans le moule pour devenir à tout prix des artistes. Et puis, je trouve que l'avantage de ces épisodes avec des, entre guillemets, inconnus, c'est que c'est aussi des gens qui ont refusé ces sacrifices et qui ont dit « fuck this », quoi. En fait, la vie d'artiste, si c'est pour supporter ça, ça et ça, non, c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être un autre chemin qui m'attend. Voilà, c'est intéressant, quoi. En fait, je trouve que Julia a été aussi un moment dégoûtée du métier de comédienne ou qu'elle ait senti que ça lui correspondait pas. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir des contre-success stories, d'avoir des stories de gens qui se cherchent, en fait, des ingoing stories. Et voilà, je trouve que c'était la richesse, clairement, hein, de ces rencontres, vraiment de Manon à Margot, à Estelle, à Laura, à Julia, vraiment des filles incroyables que j'étais très, très, très heureuse et touchée de rencontrer. Ça m'a aussi, évidemment, apporté beaucoup de confiance, hein, égoïstement, mais tout le témoignage de Julia quand elle me remercie pour le podcast, quand Laura me parle du livre, quand Manon, Margot, Estelle me parlent aussi du spectacle. Enfin, en fait, tout quand je vois que ce que je fais fait vraiment écho, ça m'encourage évidemment à continuer, parce que à part quand je vous rencontre dans la rue, en général, je vous rencontre pas. Et ces petites parenthèses dans le podcast, ça me permet en fait d'avoir un retour, quoi, finalement. Même si vous m'envoyez aussi des messages et que j'y suis très sensible et que je me sens, je me sens encouragée dans l'envie de continuer et que d'ailleurs j'enregistre trop. Je suis une boulimique de ce podcast. Je rencontre quelqu'un, je la trouve passionnante. Je me dis, mais oui, viens. Je me dis qu'il faut que j'interroge plus de femmes de la cinquantaine, de la soixantaine. Qu'on n'ait pas que des récits de jeunes femmes. Là, c'est vrai que dans cette édition, on a eu des femmes de la vingtaine et de la trentaine. Pourquoi pas, on aura aussi dans le podcast des femmes d'autres générations. Je pense que c'est important aussi qu'on ait des actrices qui parlent du fait de vieillir. Ça, je pense que ça pourrait être un magnifique sujet. Donc, ça nous laisse plein de nouvelles pistes, éléments à chercher ensemble, quoi, à améliorer. Et puis, je vous remercie vraiment, sincèrement, de rester curieux, quoi, et de ne pas être que dans l'interview classique de quelqu'un qui vient faire la promotion de son film, enfin, pour faire le cliché, mais de vraiment aller vers l'anti-but promotionnel du podcast, et juste pour s'intéresser, en fait, à des vies, quoi. Et voilà, moi, c'est un bonheur de partager ça avec vous. Je me sens vraiment très privilégiée. C'est mon bébé. Le spectacle, le podcast, le livre, tout ça, c'est vraiment très très précieux. Je participe évidemment aussi à d'autres projets, je peux vous le dire, hein, parce que c'est sorti sur Twitter dans Le Parisien, ça a été annoncé dans les médias. En fait, je vais présenter, donc l'émission que je vais présenter, ce sera sur Teva. Elle s'appellera Orgasmique, ce sera une émission sur la sexualité, et ça sera à partir de septembre-octobre. Je ne sais pas la fréquence de la diffusion, si c'est une fois par semaine, une fois par mois, toutes les deux semaines. Mais ce sera une émission sur la sexualité que je présenterai. Et il y aura deux expertes et ensuite des témoins, une sexothérapeute et une sage-femme. Et donc, et ensuite, ensemble, on traitera de plein de sujets. Donc ça, c'est le projet de la rentrée qui m'a pris pas mal de temps récemment, mais qui va être chouette, qui va être rigolo, j'espère. Puis il y a encore plein de projets dans les tuyaux, donc c'est cool. Et puis je vais peut-être aussi jouer dans des trucs mais où je suis invitée, en fait, donc j'y mets du cœur, évidemment, mais ça m'appartient pas. C'est beaucoup moins précieux pour moi que ce que je crée aujourd'hui, ce qui est à dire, c'est ce podcast, les mecs que je ken, et puis quand vous venez aussi au spectacle, et puis quand vous lisez mon livre, c'est ces trois fils qui s'entrelacent et bah, me font une natte qui me rend légère et me tire un peu vers le ciel. Voilà, c'était ma petite note poétique improvisée de fin de podcast. Je vous souhaite un très bel été. Là, il fait moche aujourd'hui à Paris, mais peut-être que chez vous, il y a du soleil. Peut-être que vous vous apprêtez à partir en vacances ou peut-être que vous allez encore travailler ardument pendant le mois de juillet. Ardemment pendant le mois de juillet. Moi, je partirai qu'en août. En juillet, je vais être pas mal à Paris et aussi au Festival d'Avignon, si jamais vous y passez. J'ai des exceptionnels au Théâtre des Béliers les 10, 16, 17, 18 et 20 juillet à 22h35. Et une date en août à Belfort et une date, un plateau aussi à Belle-Île. Voilà, je vous mets tout ça dans la description. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.